I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Salut à tous, épisode très spécial de Dunk Hebdo aujourd'hui, c'est Adrien qui vous parle. Ceux qui nous regardent sur YouTube sont peut-être déjà au courant. On est au complet aujourd'hui pour le dernier épisode de 2020, un épisode d'introspection. Introspection à base de 5 questions proposées donc par le premier membre que je vais présenter aujourd'hui, le grand spécialiste français des Memphis Grizzlies, c'est Tom. Ça va Tom ?
Ça va et toi ?
Eh bien ça
vous
va très bien.
Content de vous retrouver.
Exactement, pour la dernière de cette année, une sélection de questions donc que tu nous as proposées et qui a été validée par le grand chef Ben. Comment ça va Ben ?
Ça va, et mon coiffeur n'est pas à la retraite, mon coiffeur n'est pas en confinement au Pays de Galles, mon coiffeur va très bien, il adore mes cheveux. Merci beaucoup. Alors,
on voit la réaction aux fidèles du podcast qui réagissent sur Twitter. Ensuite, on va conclure le trio des vétérans avec la nouvelle star montante du scouting international, avec des articles dans la langue de Shakespeare dorénavant, monsieur Alain Guillou. Comment ça va Alan ?
Salut les gars, salut à tous. Ouais, j'ai un peu eu temps chargé, mais j'ai trouvé une petite plage pour venir avec vous.
Ah, on t'en remercie. Ensuite, on a eh bien, le père Castor de la Galaxy NBA FR, à qui ce cher Winston des chroniques de Motor City a dû faire appel pour notamment compter les exploits de LeBron.
C'est très
évidemment Ilias. Ça va Ilias ?
Est-ce que j'ai la tête de quelqu'un qui va bien ? Non, si, ça va, mais en tout cas, je vais beaucoup mieux que les Pistons.
C'est au moins ça de prix. Et enfin donc, eh bien, last but not least, il s'est délecté par avance de certaines questions. On va être honnête, on est très teasé par ce cher Madiane. Ça va, Madiane ?
Ça va.
Alors donc, bah voilà, on est 6 intervenants, 5 questions, c'est l'introspection 2020 chez Dunk Hebdo, et c'est parti. Comme je le disais, on s'est donc posé 5 questions aujourd'hui, enfin c'est Tom qui nous a proposé 5 questions pour faire un point sur notre relation à la NBA, et je vous propose d'attaquer tout de suite, puisqu'on est 6, on va avoir beaucoup de choses à dire, avec donc une question posée aux commentateurs de la NBA que vous êtes, messieurs. Et cette première question, c'est sur quoi avez-vous le plus appris depuis que vous faites des podcasts NBA donc. Et on va commencer eh bien, par celui qui a posé la question. Tiens, vas-y Tom, à toi la parole.
Alors moi, je dirais, côté apprentissage, je vais prendre peut-être 3 niveaux. Je vais prendre le niveau hors terrain. Donc la chose sur laquelle j'ai le plus appris, c'est vraiment le côté, l'aspect CBA. Donc c'est quelque chose que, enfin c'était très loin de moi entre guillemets. Enfin je m'y intéressais mais j'étais pas vraiment allé en profondeur. Et avec les podcasts du coup j'ai pu m'intéresser un petit peu plus à la chose pour pouvoir comprendre vraiment les mécanismes et les rouages de la NBA. Et du coup ça a amélioré ma compréhension globale de la NBA en général, du business et de ce qui se passe sur le terrain et hors du terrain. Après d'un point de vue terrain c'est plutôt la compréhension de la défense. Les stratégies défensives, le edge, le drop, tout ça. Donc c'est des choses que, enfin, ce sont des concepts que moi je connaissais pas vraiment. Enfin, j'avais une idée de ce que c'était, mais je ne pouvais pas me les représenter. Et aujourd'hui, je peux expliquer, comprendre et même expliquer, vulgariser en fait le concept du drop, du edge, tout ça. Donc ça, ce sont des paramètres un peu importants. Et puis la dernière chose, je dirais, c'est l'importance de croire que tout le monde peut jouer le titre. Ça aussi, je suis arrivé, j'avais vraiment les yeux un peu de gamin et d'enfant, je me disais ouais, tout le monde peut gagner, non, c'est faux.
Très bien, on a eu le technicien un peu de Dunk Hebdo. Je vais continuer avec les anciens parce que vous avez plus d'expérience en tant que podcasteur, on va dire, vous avez peut-être appris plus de choses d'ici là. Donc Alan, je te pose la question à toi, qu'est-ce que tu as appris depuis que tu as commencé Dunk Hebdo ?
Tout. Bah, énormément de choses. Comment regarder des matchs, quoi regarder, qui regarder, et ensuite, Les rouages de la NBA, ça c'est en parlant avec Tom, Ben et Pierre aussi, maintenant avec vous, comment ça fonctionne, comment qu'on n'est pas sur Touquet, qu'on fait pas des échanges, on fait pas des trades comme on veut, dans le sens où on veut, que on balance pas des pics n'importe comment, qu'on voilà toute cette chose là, je l'ai apprise. Je le savais, mais je l'ai matérialisé et je l'ai vraiment bien plus appris en parlant avec vous et en regardant la NBA. Donc c'est à deux niveaux. Donc c'est comment regarder des matchs, qui regarder, comment faire. Quand on se dit voilà, on va faire un podcast sur une équipe ce week-end, va falloir qu'on regarde deux ou trois matchs d'une seule équipe. C'est pas pareil que de regarder son équipe de cœur à 1h du matin un soir. Et puis après voilà le fonctionnement, les mécanismes de la NBA. Tout ce qui est salary cap, j'avais aucune idée de comment ça fonctionnait. Le cap, je connaissais vraiment peu de choses dessus. Maintenant, je peux pas t'en parler, mais je peux parler en soirée de la taxe Apron.
Apron.
Voilà, donc énormément de choses, vraiment.
Très bien, très bien. Et du coup, question à celui qui ne sait pas ce que c'est que regarder son équipe de cœur. Ben, qu'est-ce qu'on a appris depuis qu'on fait des podcasts NBA ?
Les attaques fusent. Alors, c'est intéressant parce que vu cette question-là, je pense qu'on n'a pas tous répondu la même chose. Moi, j'ai répondu beaucoup de choses, en fait, en dehors du basket. Ça m'a appris quoi ? Ça m'a appris déjà à être beaucoup plus bref, percutant, incisif, concis. Bref, voilà quoi, dans les prises de parole. Quand j'écoute les premiers épisodes, je vois que parfois il nous faut 6 phrases pour dire une chose. On essaie de travailler pour être un peu plus efficace et prendre une seule phrase par idée, un peu comme dans une rédaction. Puis vis-à-vis du podcast et de la NBA, je pense que ça m'a appris, c'est quand même une attitude que j'avais déjà de base, mais ça s'est accentué, tout questionner. Rien prendre pour acquis et se mettre en difficulté à chaque épisode. Mieux chercher des informations aussi, parce que rien que, par exemple, chercher des stats, ça pouvait être difficile il y a quelques années. Maintenant, on a pris le pli, on sait où chercher, etc. Ce qui peut être une différence vis-à-vis, on va en parler, des nouveaux ou des sophomores, en l'occurrence, où, en fait, nous, on a des automatismes. Dès qu'on prépare une émission, on sait où regarder à droite, à gauche. Donc, je pense que, ouais, j'ai appris tout ça. Alors, il y a plein de choses, mais si je dois résumer de façon extrêmement concise, ouais, prise de parole, questionnement, et puis mieux chercher les informations et mieux regarder les matchs.
Très bien, t'évoquais les sophomores, puisqu'on est, ça y est, c'est notre deuxième saison chez Dekebo, deuxième saison NBA qui débute, donc on peut parler de sophomores. Et je vais me tourner du coup vers toi, Madiane, pour commencer, pourquoi pas. Qu'est-ce que toi, t'as appris depuis, avec cette année passée chez Dekebo ?
Il y a un aspect qui est intéressant, c'est effectivement regarder très vite beaucoup de matchs d'une même équipe et essayer de tirer une analyse. Cette méthode-là, en fait, au début, c'est un peu difficile, du coup, tu regardes beaucoup, tu regardes en quantité pour un peu compenser la difficulté que réalise l'exercice. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure du temps, on arrive à s'affiner, à avoir besoin de moins de passages du même joueur pour se faire un avis sur lui. Et c'est un truc qui effectivement sur lequel tu progresses tout le long. Il y a aussi autre chose, moi c'est sur la concentration sur la méthodologie. On peut dire dans le podcast des conneries entre guillemets ou des choses vraies, et peut-être pas forcément pour les bonnes raisons. Et moi, c'est ce que je dis, c'est que je pense que ce qui est important de faire quand on travaille dans un podcast, c'est avoir raison pour des bonnes raisons. C'est-à-dire avoir une méthode de travail, une méthode d'analyse, une grille de lecture qu'on essaie d'appliquer à des équipes et des franchises. Et on l'applique un peu de la même manière. On améliore sa méthode. Après, ça peut donner un résultat positif ou négatif. On peut dire des conneries, des choses vraies. Mais ce qui compte, c'est la méthode, parce que de toute façon, dans un podcast, sur 1 an, 2 ans, 3 ans, tu vas en dire des conneries, tu vas en dire plein, mais ce qui compte, c'est qu'est-ce qui t'a amené à cette conclusion ? Est-ce que t'avais une méthode ou est-ce que t'as dit ça au pif ? Si t'avais une méthode, c'est moins grave. Il faut juste améliorer ta méthode pour moins dire de conneries.
Intéressant, en effet. Et bien du coup, Ilias, à toi maintenant, tu es l'avant-dernier sophomore, puisqu'après je répondrai à la question également.
Alors moi, qu'est-ce que je vais tirer en fait de cette année passée à vos côtés, les gars ? C'est que déjà l'exercice du podcast, c'est un exercice particulièrement complexe qui nécessite une certaine préparation, je dirais même une grosse préparation, sachant que les sujets qu'on traite peuvent tomber assez tard et en fonction de l'actu en plein milieu de la semaine. Et nos auditeurs savent peut-être pas forcément ce qui se passe en coulisses, mais en fonction de l'équipe ou du thème à traiter, la charge de travail, elle peut s'avérer assez importante. Donc ça implique forcément le fait de visionner les matchs des équipes ou des joueurs en question, se renseigner de la meilleure façon possible, préparer ses analyses, essayer d'imager ses propos à travers certaines stats ou certains chiffres. Et après, l'autre chose, je dirais que pendant nos émissions, le plus dur, c'est, je ne sais pas si ça se dit, entre guillemets, la synthétisation de son analyse. Les auditeurs le savent peut-être pas, mais c'est un point sur lequel on essaye tous de travailler et de se corriger podcast après podcast. Et le temps, il est assez limité dans un podcast. Et du coup, vouloir faire passer un maximum d'idées ou une analyse sur un sujet avec quelques secondes de parole accordées, c'est assez dur en fait. Donc encore plus pour quelqu'un comme moi qui aime, vous le remarquerez, monopoliser la parole. Non pas que voilà, j'aime écouter me parler, mais c'est que j'essaye d'être assez pointilleux et j'ai pas pour habitude de laisser passer des détails. Donc voilà, même après une réécoute du podcast que j'ai pu enregistrer le week-end d'avant, j'ai souvent tendance à me dire putain, j'ai oublié de mentionner telle stat ou tel contexte qui aurait pu mieux asseoir mon propos ou mon avis. Donc voilà, c'est surtout ces deux points-là que j'ai pu apprendre à vos côtés pendant un an.
Moi, je vais rebondir dessus pour répondre moi aussi à la question. Effectivement, c'est un des premiers trucs que j'avais noté, la difficulté de bien articuler un avis qu'on peut se faire. Alors comme tu disais, Madiane, il y a ce taf d'analyse qu'on apprend à regarder un petit peu différemment la NBA, même si on le faisait forcément d'une certaine façon aussi, mais avec notre patte à nous, mais articuler un avis correctement en essayant à la fois d'être concis et de pas oublier, comme tu disais, Elias, de ne pas oublier quelque chose souvent à la réécoute. On se dit, ah là, j'aurais pu rajouter quelque chose. Ça, c'est pour la partie podcast, donc je te rejoins totalement. Et puis après, plus sur la partie NBA, à force de se pencher sur des sujets un peu plus avec des axes un peu différents, le podcast, ça nous oblige à nous positionner différemment de ce qu'on a l'habitude de faire quand on est un simple fan, même si on est un petit peu observateur. Et donc, ça a fait évoluer, moi personnellement, ma vision notamment du travail de GM, des front office en NBA. Tu parlais, Alan, tout à l'heure, on n'est pas sur NBA 2K, c'est un peu ça. On se rend compte qu'il y a beaucoup plus de nuances dans ce boulot-là, mais aussi dans la qualité, l'évaluation de la qualité d'un joueur et d'un effectif qui n'est pas aussi noir ou blanc que ce que parfois on peut penser. Et je vois que Ben, tu lèves la main, donc vas-y, je t'en prie, rebondis.
Non, moi j'ai juste une question, et ça s'adresse à nos trois sauf aux morts, parce qu'en fait vous avez été auditeur et vous êtes maintenant dans l'équipe. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir qu'est-ce qui vous a surpris, et surtout, vous parlez de la charge de travail, etc. Je pense que c'est beaucoup plus intéressant de voir avec vous, genre, est-ce que vous pensiez, par exemple, ça se prépare autant? Moi, j'insiste toujours sur le fait que, en réalité, une heure de podcast, c'est beaucoup d'heures de préparation, quoi.
7 à 8 heures.
Vas-y, Madiane, hein, je vois que tu veux répondre.
Il y a un truc, en fait, qui au début, en fait, c'est quelque chose où on a tous pêché en tant que rookie, et il faut l'accepter. C'est que tout ce que tu sais, toute la connaissance que tu as accumulée en préparant quelque chose, tu ne le diras jamais, tu ne le diras sous aucun prétexte, et ça ne marchera jamais si tu dis tout. Et en fait, tu te rends compte que des fois, en repensant à quand tu étais auditeur, en fait, tu te dis « Ah ok, mais en fait, ils en avaient tous beaucoup plus sous la semelle que ce qu'ils disaient, et qu'en fait, ça articule un avis, et qu'on te donne des raisons, mais que ça te donne pas toute la galaxie qui font que tu penses quelque chose. Il y a beaucoup de choses qui font que tu vas penser quelque chose, mais tu ne pourras jamais le dire dans un podcast. Ça peut être très frustrant, mais c'est, je pense, quelque chose qui, du coup, quand on passe côté préparation du podcast, on se dit, ah ouais, mais en fait, en tant qu'auditeur, je me rendais pas compte de tout ce qu'il y avait derrière, tout ce qu'il disait.
Ouais, c'est ça, je vais remonter aussi, il y a les discussions.
C'est vrai qu'il y a Twitter. Ouais, si tu veux prolonger la discussion et non
discuter
pas
sur dire, Twitter.
Ah, wow. Je suis pas d'accord avec toi.
Monsieur est optimiste.
Oui, non, mais monsieur est une star de Twitter maintenant, c'est pour ça. Et effectivement, il y a ce côté-là. Puis je rajouterai un truc du côté, vu que petit à petit, vous m'avez laissé généreusement prendre une petite place, un peu de présentation. C'est un exercice assez particulier là-dessus. Et quand on passe de ce côté-là, le fait de. Comment dire, d'essayer d'équilibrer les prises de parole sans pour autant amener une frustration pour celui qui voudrait justement étayer son propos, être précis. Comme tu disais, Ilias, peut-être que parfois c'est peut-être un peu long, mais t'as pas envie de couper non plus, parce que moi, en tant qu'auditeur, même pendant le podcast, j'ai envie de te laisser aller jusqu'au bout. Et d'un autre côté, essayer de faire en sorte que ça reste à peu près dans les temps, qu'on suive ce qu'on s'était dit, puisqu'en amont, il faut le savoir, on prépare nos podcasts pour savoir de quoi on va parler, que chacun puisse émettre son avis. Voilà, c'est un aspect aussi un peu technique, mais qui est hyper intéressant, en tout cas moi, tout au long de l'année, et qu'on continue et on continue de progresser au fur et à mesure, puisque ça fait qu'un an, nous, qu'on est là. Je sais pas si tu veux rajouter quelque chose, Ilias.
Non, on devrait faire en fait comme les membres du Wu-Tang, c'est-à-dire sortir des podcasts solo. Donc là, au moins, on aurait suffisamment de temps de parole pour, pour exprimer nos propos. Non, mais enfin voilà, enfin c'est ce qui est sûr, c'est que voilà, ça, il y a énormément de points positifs et je pense que au moment où j'ai été entre guillemets recruté, je pensais pas que la tâche allait être aussi complexe en fait. Mine de rien, c'est du travail et voilà, les auditeurs le savent pas forcément, mais tout ça, c'est quelque chose qui se prépare largement en amont et quand on arrive voilà le dimanche pour enregistrer, c'est généralement faut être prêt et bien informé.
Est-ce que les réponses vous satisfont, cher Ben?
J'avais pas, je note pas. Non mais oui, non mais si c'est vrai. Je pense que on s'en rend pas compte. Moi j'ai toujours l'habitude de dire, enfin je le disais plus avant. J'estime que les gens nous offrent de leur temps. Il faut le mettre à contribution si c'est pour balancer des généralités ou pas analyser. Je trouve ça un peu déplacé même.
Ouais. Et surtout sans oublier de bien vulgariser, puisque c'est très très important la vulgarisation, surtout dans certains épisodes où on va plutôt toucher sur des choses techniques, puisqu'on touche vraiment, enfin aujourd'hui l'auditeur de podcast NBA, je pense il va de la personne qui regarde un match comme ça, qui suit une équipe, à la personne qui est vraiment très pointue, et du coup le niveau et le degré de demande. Voilà, enfin, c'est ça le niveau, en fait, le niveau de chacun est différent. Il faut pouvoir s'adapter à chacun et être le plus compréhensible possible quand on va expliquer des choses qui pour nous semblent simples, mais qui ne le sont pas pour tout le monde.
Et d'ailleurs, ça soulève un point intéressant aussi, tu m'y fais penser, je rebondis dessus, mais sur le choix éditorial, c'est un grand mot, mais quand même, il s'y prête, du podcast, et c'est une réflexion qui est permanente, notamment chez toi, Ben, parce que tu chapeautes un peu tout, mais c'est une discussion qu'on a entre nous sur justement ce que tu disais, Tom, où il faut plus ou moins vulgariser, quelle est notre place justement en tant que podcast NBA en France, et à qui on s'adresse, et à quoi on doit faire plus ou moins attention. Et d'ailleurs, comme disait Alain, n'hésitez pas à échanger sur Twitter avec nous, parce qu'on prend les retours, positifs comme négatifs, ça nous permet un peu d'affiner justement ce qu'on est capable d'offrir. Oui, Elias, je t'en prie.
Alors, moi, je rebondis rapidement sur ce que disait Tom. Je pense que le côté technique, même s'il n'est pas suffisamment accessible lors d'une écoute d'un podcast, je pense que ça peut aussi jouer sur la sensibilité de chacun, de chaque auditeur, en fait, à essayer de pousser la réflexion, parce que généralement, voilà, quand on n'arrive pas forcément à saisir ce qui a pu être dit dans un podcast, eh bien ça va peut-être pousser l'auditeur, et en tout cas moi c'est un peu la position que j'avais il y a encore un an, à justement faire ses recherches, que ce soit sur des sujets comme la draft, des sujets comme le salary cap et ce genre de choses. Donc je pense que ça peut aussi avoir tendance à créer des vocations.
Il y a vulgariser et donner envie aussi de s'intéresser. Voilà, il faut équilibrer tout ça. Je vous propose qu'on passe à la question suivante parce qu'elle est un peu corollaire, j'allais dire, à celle-là. On emploie des grands mots aujourd'hui. en tout cas, elle va y ressembler peut-être sur cette.
Ouais, le niveau de langue aussi. Je glisse juste ça là aussi. Ouais.
Le niveau de langage, effectivement, ouais. C'est une question qui se pose forcément dans tous médias audio. En tout cas, c'est sûr. Et donc, la question numéro 2, c'est sur quoi votre regard a le plus changé, évolué? Donc, on va retrouver peut-être certaines réponses. Je vais te donner la parole à toi, Alan, parce qu'on t'a un peu moins entendu là, sur ces dernières minutes. Qu'est-ce qui a le plus évolué chez toi ces derniers temps depuis que tu es un membre éminent du podcast Dunk Hebdo?
Merci beaucoup. Les valeurs des postes, c'est la chose qui a le plus évolué, en fait. Je disais pas que pour moi, il y a 5 ans avant que je commence le podcast, ou même que j'arrive sur Dunk Hebdo il y a 7 ans maintenant. Parce que ça fait long,
ça
quand
fait
même.
Longtemps, ouais.
Je disais pas qu'un pivot va aller à un ailier et qu'un ailier va aller à un meneur. Quand même pas. On sait quand même, quand on regarde, que les ailiers sont ce qui t'amène au titre et tout en haut. Mais là où j'ai le plus évolué, c'est en fait dans la valeur de ce qu'on des Américains appellent la valeur de remplacement de certains postes. Et voilà, pour moi, ça implique aussi, ça implique comment payer des joueurs, comment drafter des joueurs et comment drafter et payer certaines positions. C'est la chose qui a le plus, mon regard a vraiment le plus changé. Et c'est quelque chose que j'essaie d'appliquer au quotidien avec l'exemple, deux bons exemples, donc les pivots, mais les pivots non générationnels, voilà, qui sortent du quatuor, Jokic, Towns et compagnie, Davis, et les meneurs backup. Les meneurs backup. Deux postes où la valeur de remplacement est assez haute et où, en fait, je préférerais toujours signer un agent libre pas cher plutôt que de drafter. C'est la chose vraiment où j'ai le plus évolué, et surtout depuis un an, 2 ans, en parlant avec vous tous et tout ça.
Tu vas avoir du mal avec Peyton Pritchard, hein, toi.
Bah tiens, Tom, t'as pris la parole, vas-y, réponds à la question. Sur quoi ton regard le plus évolué?
Moi, je dirais clairement, enfin, la chose sur laquelle mon regard a le plus évolué, c'est vraiment le concept de loyauté joueur franchise. En fait, j'ai commencé les podcasts, j'étais vraiment pro franchise, et au fur et à mesure, je suis passé pro joueur, en fait. je suis passé pro joueur, et le concept de loyauté, en fait, au début, je pensais vraiment, ouais, faut que le joueur soit loyal à la franchise, l'amour du maillot. Non. Chacun est loyal à ce qui lui plaît, quoi. Donc du coup, je vais pas reprocher un joueur de privilégier l'argent, et je vais pas le juger pour ça, quoi, puisque la franchise, ce sera la première équipe à vouloir transférer le joueur pour récupérer un joueur meilleur, tu vois. Moi j'aime bien, tu vois, par exemple, quelque chose que j'ai pu voir récemment par rapport à James Harden, les gens qui adoubent le comportement de Damien Lillard qui veut rester sans jamais mentionner le fait qu'il est chèrement payé pour rester, et qui veulent transférer CJ McCollum pour James Harden, alors que McCollum, si tu regardes, il suit le même principe que Lillard, où tout le temps il dit qu'il veut rester à Portland, il veut pas bouger, il veut pas bouger. Et en fait, c'est là, tu vois, l'espèce de dualité, en fait, dans le concept de loyauté. En fait, les fans sont loyaux envers juste la franchise, peu importe les joueurs. Et les joueurs, ils sont loyaux envers ce qui leur fait envie, quoi. Et tu peux pas reprocher un joueur, par exemple, tu peux pas dire à un joueur, ouais, si t'aimes tant la franchise que ça, prends moins d'argent. Mais où tu vois ça? Enfin, ça, c'est des choses sur, c'est une réflexion que moi, j'aurais peut-être pu avoir au tout début, et maintenant, j'ai pas le même regard. J'ai pas le même regard du tout. C'est la chose sur laquelle j'ai vraiment le plus évolué.
Je vais m'immiscer à ce moment-là, parce que j'avais noté exactement la même chose, et le rapport de pouvoir aussi qui existe entre les équipes et les joueurs, le rapport de force, on l'avait un peu évoqué dans le podcast sur les petits et les gros marchés qu'on avait fait cette année. Et moi, la même façon que toi, Tom, j'étais plus équipe, je suis passé de plus en plus joueur, puis je suis revenu un petit peu dans la nuance, parce que je pense qu'on est, on en a parlé hein, de toute façon dans ce podcast, je vous invite bien sûr à l'écouter, qu'on est peut-être passé dans un extrême sur certains joueurs qui essayent de faire valoir leur droit à choisir alors qu'ils ont signé un contrat. Après voilà, c'est tout un écosystème l'NBA, mais effectivement c'est un sujet sur lequel moi mon regard fluctue beaucoup ces dernières années, donc j'aurai également le même. Ensuite, je vais poser la question, tiens, à côté de Tom sur mon écran, c'est Madiane. Madiane, ton regard.
Y a un truc qui est important et que j'avais du mal à saisir. Enfin, c'est-à-dire que si je prends tous les GM et que je les fais remplacer par des agences artificielles et qui doivent essayer d'optimiser les décisions, ce qu'on aura, ce sera une NBA binaire avec des équipes qui joueront le titre, tout le reste qui tankera. Parce que
c'est
si le but,
NBA,
c'est
ça.
Si le but c'est de gagner un titre, soit tu tankes, soit tu joues le titre. Tu fais rien entre. Et en fait, je me suis rendu compte très vite que en fait, il y a des éléments, il y a des contraintes économiques. Je dois remplir ma salle. Il y a des contraintes. J'ai mon proprio. Il veut avoir sa star. Il veut être en playoff. Il veut sa star. Il y a aussi des contraintes sur. Est-ce que par exemple, je joue le titre? Ok, c'est cool. Mais je suis GM de Houston, j'ai un proprio qui veut pas payer la luxure et taxes. Comment je compose avec ça? Et en fait, il y a pas mal de choses qui font que ça n'existe pas. Donc il y a des décisions que tu peux pas forcément comprendre en disant NBA binaire. Mais qu'est-ce qu'ils foutent à vouloir aller en playoff? Non, ils auraient dû tanker. Orlando qui a végété à la limite des playoffs pendant 3-4 saisons, qui y est maintenant. Est-ce qu'ils vont vraiment aller vers un titre? Non, mais... Est-ce que ce qu'ils font est forcément mauvais? Pas foncièrement.
C'est grave.
Ben, c'est surtout,
est-ce que c'est mal?
Surtout ce qu'ils ont vécu juste après le départ de Ward, tu vois. Peut-être qu'ils s'accrochent à ça puisqu'ils ont connu le vide.
Ça s'explique toujours. Ça s'explique toujours, comme pour Détroit. Ça s'explique.
Détroit, et je suis étonné qu'ils tankent maintenant au vu des contraintes économiques qu'ils ont avec leur salle.
Mais parce que ça a évolué, je pense. Il y a une évolution un peu du paradigme où ça va de plus en plus vers on tank, on joue le titre, je trouve. On nous sortait avant l'argument à la Madeleine de Proust. Il y a des équipes qui tankent pas. On a vu Détroit tanker, on a vu Atlanta tanker. Les équipes qui soi-disant étaient immunisées le font.
Dallas.
Enfin bref.
Très bien, vas-y Ben, t'as pris la parole, je t'en prie,
je suis allé
donner la parole à la défense côté Détroit.
Je suis allé un peu autre part, moi. Alors, je dirais pas que c'est depuis le podcast, mais c'est dans la temporalité, c'est un peu après, mais moi c'est Twitter en fait. Ce qui a le plus changé en l'instant T, je parle aujourd'hui par rapport à peut-être Benjamin d'il y a, j'adore parler de moi à la troisième personne, d'il y a un an et demi.
C'est ça.
En fait, je me suis rendu compte dans mon expatriation au pays de BTS que, en fait, Twitter NBA, c'est pas la vie, tu vois. Et qu'en fait,
clairement,
je vais limite nous harakiri. C'est incroyable qu'on ait une question dans cette trame qui mentionne NBA Twitter comme un fait acquis. En gros, tout fan NBA serait censé y connaîtrait à peu près ce qui se passe sur Twitter NBA Twitter, et en particulier dans l'atmosphère française, dans la stratosphère française. En réalité, ça, c'est faux. Enfin, je trouve que on prend beaucoup trop quand on est un vrai aficionado de NBA. On a l'impression que ce qui se passe sur Twitter, tout le monde est au fait des dernières rumeurs. Tout le monde est au fait de, ce débat-là, je sais pas. Il y a quoi comme débat? Un moment, pendant les playoffs, on avait eu un Booker Mitchell incessant. Non. Enfin, tout le monde n'est peut-être pas au fait de ce débat-là. Donc ça, ça a évolué. Je trouve qu'en fait, c'est juste prendre du recul et se dire, on n'a pas tous le même traitement et le même rapport à l'info. C'est pour ça, moi, ça m'énerve quand je vois, par exemple, des jugements de valeur. Ah, il suit la NBA sur Instagram. Oui, mais ça se trouve, il analyse mieux peut-être le jeu que toi. Enfin, bref, il y a ça où le rapport aux médias et la façon de consommer la NBA, Twitter, c'est pas la vie. C'est pas la NBA.
Très bien. C'était un début de hot take de Ben. On en aura d'autres, je pense. Ilias, t'es le dernier à répondre à cette question. Sur quoi ton regard a le plus évolué, hein, notamment cette année, du coup?
Je dirais que mon regard, il a surtout changé sur ma manière de regarder, d'analyser le jeu et de suivre la NBA au quotidien. Disons que ça a été plutôt positif, car ça a tendance à te faire gagner en objectivité. Quand t'as pas d'auditoire ou que t'es pas engagé sur un podcast, tu t'en fous complètement d'être subjectif ou crédible. Les avis, tu les balances, ils t'appartiennent, et si t'es amené à les partager avec des potes, c'est pas très grave. Même si c'est une connerie, vous êtes d'accord, tant mieux. Et si vous n'êtes pas d'accord, tu l'insultes, il t'insulte, et ça finit au kebab ou sur la console, et c'est réglé. Voilà, je sais que certains se reconnaîtront dans ce que je dis. L'autre chose, c'est que tu as tendance aussi à te mettre à mettre un peu la passion de côté. Forcément, parce que ça rend l'équipe, que tu supportes et que tu suis au quotidien encore plus claqué. Je parle pour moi. Pour ceux qui n'auraient pas capté, voilà, je parle des Pistons. Je trouve, sachant que voilà, qu'aujourd'hui, maintenant, je regarde beaucoup plus de matchs, beaucoup plus d'équipes. Maintenant, j'ai donc plus d'éléments de comparaison. Et donc, par exemple, quand je regarde les Knicks et les Cavs actuellement, ça me fait dire que Détroit est encore plus moribond. Donc disons que c'est plutôt une espèce de vision globale et générale de la chose. Hein. Donc, merci Dunkebdo. ça me fait détester encore plus mon équipe. Et l'autre chose, par contre, là, vraiment purement concernant le jeu et la manière peut-être de construire son effectif, je pense que j'ai mis énormément de bémols à l'importance du fit, en fait. Principe qui est en train de se perdre de plus en plus, en fait, au fil des années et en fonction de l'évolution du jeu. C'est plus un secret pour personne, mais pour ceux qui ont regardé et consommé beaucoup de basket dans les années 90, on avait vraiment cette espèce de squelette et de schéma à respecter, avec un meneur de jeu, un arrière, un ailier d'une certaine taille, un ailier fort et un grand pivot. Tout ça, c'est maintenant devenu des schémas et des concepts un peu galvaudés, et maintenant on est sur un tout autre modèle qu'il faut saisir, tout simplement.
Très bien. Eh bien, on va pouvoir aller sur la question d'après, qui va faire plaisir à Ben.
Non, parce qu'en fait, on a posé la question sur Twitter, et c'est intéressant, c'est que là, on a eu plusieurs réponses qui ont mentionné les jeunes joueurs. Les gens, depuis qu'ils ont commencé à regarder la NBA, ce qui a le plus changé, c'est le rapport aux jeunes joueurs, et je pense la fin de cette illusion. Je voulais juste le faire noter, parce que c'est un peu un des thèmes de l'année. On
dans
en
le
a
sens
beaucoup.
Positif ou négatif, du coup?
Négatif. En mode, c'est peut-être la notion d'espoir de jeunes joueurs, etc. Donc,
à noter. Année.
Ouais, c'est un autre sujet. On va pas. C'est pour ça que je voulais pas qu'on s'arrête dessus, parce qu'on en a fait, des épisodes sur la draft, petit marché, etc., reconstruction. Mais juste noter que visiblement, quand tu commences à t'intéresser en NBA, la jeunesse perd un peu de son attrait. visiblement.
Le fameux biais de jeunesse. Mm-hmm. Très bien, bon, on va retourner justement sur Twitter, tout ce que tu aimes avec la question d'après, qui va peut-être lancer des polémiques. Ça y est, on va se faire des amis, c'est maintenant. Quelle est votre plus grosse unpopular opinion par rapport au NBA Twitter FR? Alors, je traduis en français, unpopular opinion, donc une opinion qui est, disons... pas à contresens de la majorité, on va dire, dans tout cas, de ce qu'on peut voir des commentaires, ouais, sur Twitter.
Minoritaire. Ouais.
Voilà, donc c'est le moment, je ne sais même pas où lancer la balle. Allez, Tom, c'est pour toi la première.
Je commence par Alain Juppé, ça va.
Ouais, c'est ça.
On y va progressivement, on y va. Je garde la cartouche Madiane de voilà. Côté.
Encore une fois, on va me traiter de politicien. Non, mais moi, clairement, moi, ce que je pense que la majorité des gens pensent différemment. C'est qu'en fait, les Warriors ont plus eu besoin de Kevin Durant que lui a eu besoin d'eux, tout simplement. Je pense que si Kevin Durant ne rejoint pas les Warriors, Steph Curry, il a juste un seul titre. Moi, c'est ce que je pense. Je pense vraiment ils battent pas les Cavs de 2017 qui sont bien meilleurs que les Cavs de 2016 qui gagnent le titre. Et je pense que les Rockets de 2018 sont très 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 forts. Ils sont avec Harrison Barnes au max et Andrew Bogut à la place de Kevin Durant sur un 1+1 et David West au minimum vétéran. Tu bats pas ces équipes là.
Ah, c'est pas si mal, hein. T'as été médisant, Ben, ouais, sur le côté Juppé. Elle peut faire réagir celle-là. Je connais 2-3 fans des Warriors qui seront pas forcément d'accord, mais c'est le jeu. Donc très bien. Allez, balle à Alan maintenant. Dis-nous, Alan, fais-toi des amis.
Moi, c'est que. C'est juste ce que je pense. C'est que je trouve que l'inverse est souvent plutôt mentionné sur Twitter. Donc je sais pas. Ce que vous allez, c'est que pour moi, Kevin Garnett est une. 2 étages au-dessus de Dirk Nowitzki.
Aïe, aïe, aïe. On va pas se faire des amis en France, mais je pense qu'on est, on est plusieurs à le penser ici, en plus.
All time, et qui regarde dans les yeux Tim Duncan. Il regarde dans les yeux Tim Duncan.
On va pas se faire des amis en France.
Wouah!
Ouais, mais donc c'est une popular opinion, Tom.
Mais moi, je pense comme toi. Moi, je pense que Kevin Garnett est meilleur que Dirk Nowitzki. Après, en termes de carrière, peut-être que la carrière de Nowitzki est plus belle, mais je pense qu'à son pic, Kevin Garnett est un meilleur joueur que Dirk Nowitzki.
Ce qui est difficile sur cette question.
J'ai même pas d'argument à dire.
Le problème, c'est que il y a pas d'argument, et justement, c'est ce que je vais dire, c'est que je pense que
J'en ai préparé.
Au-delà de ces arguments, je pense qu'en fait, on ne compare pas tout à fait la même chose. On compare un poste, mais en fait, c'est pas exactement la même chose. Et ce que t'apportent les deux joueurs et leurs points forts, leurs points faibles, ils sont pas égaux. Et à partir de là, en fait, c'est très difficile à évaluer. Et du coup, que tu me dises A ou que tu me dises B.
Bah si je te dis
tu trouveras toujours un moyen de le défendre.
Si je te dis B, t'as un mec qui joue pas en défense, mais bon, ça c'est pas grave.
Je suis d'accord, et il y a peut-être quelqu'un qui te dira le shoot de Dirk Nowitzki, ça m'apporte beaucoup plus sur le terrain pour X raison. Enfin, en gros, selon le point de vue, selon quelles sont les choses que tu mets dans la balance, que tu valorises le plus, ouais, tu vas avoir une opinion A, une opinion B. Mais est-ce que A et A en fait, raison, B a tort?
Dépend beaucoup de toi, ta pondération.
Alan, il parle même pas sur son âne.
Je peux même pas parler.
Bah, vas-y, Alan. Excuse-moi.
Bah, t'inquiète. Mais KG, c'est un des 5 joueurs à avoir remporté le titre de meilleur défenseur et le titre de MVP. Pas la même année, mais ils sont 5 dans l'histoire à avoir eu les deux. Donc c'est une force révolutionnaire des deux côtés du terrain, Kevin Garnett. On lui reproche une chose, en fait, qu'on reproche pas à Dallas, c'est qu'il y a cette espèce de romantisme à la française qui gagne avec Dallas en 2011. KG, il a un titre aussi avec Boston en 2008, qui est un titre difficile aussi. Il y a des grosses équipes qu'il a dû éliminer. C'est une dynastie, les Celtics, c'est qu'un titre, mais c'est une dynastie quand même, 2008-2012, et ça fait pas mal de choses. Et en fait, voilà, le seul reproche, c'est qu'il a pas gagné avec Minnesota. Je pense que gagner avec Dallas et San Antonio, c'est un peu plus simple que gagner avec Minnesota quand on voit la gestion de la franchise. Après, voilà, pour moi, c'est... Je pense que peut-être aussi parce que les Mavs sont beaucoup plus les fans des Mavs sont peut-être beaucoup plus nombreux sur Twitter que les fans de Minnesota peut-être mais je le sais, mais j'assume et je l'ai déjà dit en plus sur Twitter que pour moi Kevin Garnett c'est même pas comparable avec Dirk Nowitzki parce que Enfin, il a révolutionné le poste à son arrivée. Il pouvait être capable, c'était un mec qui était capable de tourner en 25, 10, 6 au milieu des années 2000 en jouant à l'intérieur, en défendant toutes les positions. Enfin, pour moi, c'est pas trop comparable.
Je pense qu'on a la preuve que ton opinion est clivante, puisque t'as même pas placé un mot au début que c'était déjà parti de tous les côtés. Mais je pense aussi ce qui joue un peu contre KG, tu parlais de la côte d'amour, le romantisme sur Dallas, mais il y a aussi voilà les déclats post-carrière de KG qui sont pas toujours hyper fines pour rester poli. Et je pense que ça lui crée des ennemis qui du coup vont regarder avec ce prisme-là sa carrière, vouloir le descendre de la même manière pour Paul Pierce d'ailleurs sur ce côté-là. Ils se sont pas fait que des amis cette dynastie des Celtics. Donc ça joue forcément, mais on peut pas conclure ce débat-là. Et puis tiens, Ilias, c'est à toi, t'as pas trop entendu depuis un petit moment. Vas-y, c'est à ton tour de te faire des copains.
Bah déjà, je vais m'embrouiller avec Tom parce que tout à l'heure, quand il a donné son avis, il m'a un petit peu soufflé justement mon opinion impopulaire. Ce que je trouve le plus surcoté et qui a tendance à énormément revenir sur Twitter pour gonfler tel ou tel joueur. On l'a vu d'ailleurs récemment avec Giannis qui signe son extension max. C'est le principe de fidélité. Il y a rien de plus surcoté, je trouve, en basket. C'est déjà quelque chose de fortement surcoté en foot. Mais alors en basket, je vous raconte pas. La fidélité d'un joueur, déjà, elle dépend avant tout du contexte dans lequel il atterrit, notamment au moment de sa draft. Et après, également aussi en fonction des contrats qui lui sont proposés. Et tout ça, ça a aussi un peu tendance à favoriser une legacy. Aujourd'hui, on a tendance à entendre que Kobe a été fidèle aux Lakers pendant toute sa carrière, ce qui est faux. Pour ceux.
Il a failli signer chez nous.
Voilà. En tout cas, signer, je sais pas, mais en tout cas, il a failli être transféré chez vous, tout à fait.
Oui.
Pour être tout à fait précis, hein, on en revient à ce que je disais tout à l'heure. Et donc pour moi, c'est quelque chose d'extrêmement surcoté parce que déjà, Kobe atterrit dans un contexte ultra favorable. Après, il en veut un petit peu plus, donc il demande le transfert de Shaq, ou en tout cas son départ. Il fait tout pour devenir l'option numéro 1. Et dès l'instant où ça a commencé à ne pas gagner et qu'il a vu qu'il n'était plus en position de gagner, il a commencé justement à réclamer son trade. Il y avait même un deal en place pour les Bulls. Et c'est là que justement son front office s'est activé pour pouvoir lui ramener Pau Gasol en échange de...
Kwame Brown.
Bien ouais. Bien ouais. Et tout ça pour dire que effectivement, il a porté le maillot des Lakers pendant toute sa carrière. D'autres ont aussi porté qu'un seul maillot, mais je pense que tout ça, ça va dépendre beaucoup du contexte dans lequel tu es. C'est beaucoup plus facile de faire toute ta carrière aux Lakers ou dans un gros marché. Là, on peut en revenir un peu à l'épisode qu'on avait fait concernant les petits et gros marchés. Mais par exemple, des joueurs comme Bird ou Magic. Enfin, imaginez-vous où est-ce qu'ils sont draftés avec leur position de draft. Ils atterrissent dans les deux meilleures franchises.
Ça n'a pas de sens.
Voilà, ils atterrissent dans les deux meilleures franchises de l'époque et qui sont d'ores et déjà les deux franchises les plus mythiques de la NBA. Donc, c'est beaucoup plus facile d'être fidèle, sachant que de toute façon, l'argent, tu l'auras. Et après, pour ce qui est de cas comme Giannis, je sais pas. Si aujourd'hui l'extension max a été mise en place, c'est justement pour permettre à des marchés comme celui de Milwaukee ou de OKC à l'époque pour l'extension de Westbrook de pouvoir proposer ce type de contrat pour pouvoir justement mettre le grappin sur ta star et ne pas la pousser à aller signer ailleurs. Donc,
le supermax.
Toujours cette histoire de conjoncture qu'on avait évoquée dans les gros marchés, parce que je pensais à Tim Duncan quand t'évoquais tout ça, qu'effectivement à San Antonio c'est pas une grande franchise, mais il y a aussi beaucoup de choses qui se sont alignées pour que la fidélité soit respectée des deux côtés.
Même Tim Duncan, c'est un contre blanc exemple, il a failli former un trio avec T-Mac et Grant Hill au Magic.
Ça aurait été quelque chose là. Enfin, on n'est pas dans les what if, on est sur cette ambiance. Donc, vous êtes deux, effectivement. Donc, vous allez pouvoir vous faire des ennemis communs. Je vais garder le meilleur pour la fin. Donc, Ben, je t'en prie, est-ce que tu as une opinion impopulaire à nous proposer?
Je sais pas si c'est vraiment impopulaire, mais je rejoins un peu Anne sur la vision française. Je dirais même une vision européenne. Moi, c'est la figure du coach, en fait. J'en ai vraiment ras-le-bol. Le coach, ça me gave vraiment, moi. C'est-à-dire, c'est vraiment la figure du coach, je trouve qu'elle est, d'un point de vue NBA, est totalement mal jugé. Je trouve que dans certains cas, j'irais même jusqu'à dire qu'on surestime grandement leur importance, en fait. Parce que pour moi, c'est clairement, quand on parle du coach, on a une approche européenne, système, etc., etc. Alors que je reste persuadé qu'il y a des choses qui s'appliquent pas en NBA. Pierre, qu'on salue, il avait l'habitude de parler de fondamentaux de jeu ou de philosophie. Je pense que c'est beaucoup plus applicable qu'un système. Bon, bah, toi, tu vas là, toi, tu vas là, toi, tu vas là. Ça, j'y crois pas vraiment. Et puis, statistiquement, j'ai même fait, je posterai ça sur Twitter. J'ai même lu pas mal d'articles de, qui travaillaient la data, etc. On se rend compte qu'en réalité, un coach, même pour l'élite des coachs, ils ont moins d'influence que les superstars NBA. C'est-à-dire que un coach qui a 5 ans sur le même banc, il apporte en réalité 2 victoires de plus en moyenne par saison. Le win share pour les coachs, c'est-à-dire le nombre de victoires apportées. À titre de comparaison, les meilleurs joueurs de la NBA, dans cette stat-là, ils sont au-dessus de 10. Hein. Vous voyez, le rapport, il est complètement incroyable. Pour même les superstars du coaching, un Phil Jackson, ça a été estimé à 8, un Greg Popovich à 4. Alors certes, c'est énorme, mais pour moi, en fait, cette idée du coach, elle est totalement surévaluée. Cette idée aussi du coach où je trouve qu'on a toujours un a priori négatif vis-à-vis des anciens joueurs. C'est-à-dire qu'il y a quand même un arrière-plan très, très dérangeant qui sous-entend que c'est parfois des demeurés. Enfin, j'ai vraiment du mal avec ça. Ou dès que c'est un ancien joueur, on questionne pourquoi il arrive là. Enfin, moi, je questionne pourquoi certains assistants arrivent là. On a vu des accidents industriels. Brian Shaw, on te salue. Enfin, bref... Je comprends pas, en fait. Le coach, on est dans une obsession où il faudrait que ça soit un petit assistant, voilà, qui monte, etc. Alors qu'on oublie que être coach, par exemple, cette année, je sais pas, du Thunder, des Pacers et des Clippers, c'est pas la même chose. Enfin, il n'y a pas les mêmes attentes. Donc, moi, c'est cette figure du coach que j'en peux plus, et je finirai par, ce qui me saoule le plus vis-à-vis des coachs, c'est qu'en fait, on leur donne une importance exagérée, je trouve, dans certains cas. Par contre, les jugements, ils sont totalement arrêtés. C'est-à-dire que Tyronn Lue a été décidé, c'est une buse. Enfin, on a décidé, quoi qu'il fasse, ça sera un tocard. Par contre...
Ça, on en parlera dans la question d'après, parce que j'ai quelque chose à ce sujet.
Par contre, Jeff Hornacek, qui avait fait 6 mois bon avec les Suns, il avait tout le temps des postes, alors que le mec n'avait rien prouvé depuis. Mais ça avait été décidé que c'était un bon coach. Enfin, il y a aucune évolution. Enfin bref, par exemple, là, Thibodeau s'est acté que c'est un mauvais coach, alors que pour l'instant, ce qui fait que New York, c'est plutôt intéressant. Enfin, j'attends de voir. Donc ça me saoule vraiment.
Que c'est un mauvais coach du côté de Chicago, on le respecte toujours.
C'est bon, ça, tu vois. Mais par contre, ça a été. Il y a la narrative de c'est un mauvais coach. Pareil avec Doc Rivers.
C'est devenu un mauvais coach. Ouais.
Doc Rivers, il gagne à deux endroits. Enfin, il gagne pas. Il construit des grosses équipes à deux endroits différents. Enfin, bref. Moi, c'est les coachs.
Disons que la lecture sur les coachs, elle est trop différenciée de celle des joueurs où on excuse le contexte pour plein de joueurs. On en parle très peu pour les coachs et où ça peut fluctuer. Et après, là où je nuancerais aussi un peu, moi, par rapport à toi, c'est que tu dis, bon, l'importance d'un coach, elle est peut-être pas si grande en termes de plafond, si on va prendre les winchairs, mais je trouve qu'en termes de plancher, ça change. C'est le jour et la nuit. Nous, on est en train de le voir.
Non, mais toi, t'as eu Jim Boylan.
C'est pour moi, on se base sur des mecs Ouais, si t'as, il y a des mecs qui vont tuer une franchise, mais en réalité, il y en a quoi? Il y en a deux dans la NBA.
Earl Watson, ouais.
C'est...
Jack Vaughn.
C'est mauvais ce qu'il a fait au match.
C'est de la bulle, hein. Pas celui de la bulle.
Après, pour revenir rapidement sur ce que disait Ben, je pense que c'est quand même du cas par cas. Ça concerne pas tous les anciens joueurs. Il suffit de voir un peu la cote dont peut bénéficier Steve Kerr. Et par exemple, moi je trouve que son travail, il est pas forcément souvent mis en lumière, alors que beaucoup ont tendance à dire qu'il a surfé sur le travail de Mark Jackson, ce qui est totalement faux. Mark Jackson, d'ailleurs, qui depuis n'a pas retrouvé de poste. Donc moi, je sais pas si ça s'applique forcément à tous les joueurs. T'as par exemple quelqu'un comme Doc Rivers. Voilà, il a connu certaines déconvenues ces dernières années, mais il a été champion avec Boston, et beaucoup oublient encore le début des années 2000 quand il coachait Orlando et qu'il a été coach de l'année. Donc je pense que c'est une question de cycle, c'est une question de contexte, de joueurs que tu as sous la main, et après il y a forcément les résultats et les playoffs qui sont un peu là pour on va dire te mettre en valeur ou non. Donc c'est toujours assez compliqué.
C'est bon, c'est une belle conclusion sur ce sujet-là, puisque je sens que Madiane, t'es chaud, mais je vais encore te laisser un petit peu de côté, là, parce que moi, je vais dire que quelque chose, et puis toi, tu pourras y aller ensuite. Moi aussi, je n'ai pas trop de grosses opinions impopulaires, en tout cas, je pense pas, si ce n'est que je vais pas me faire pote avec ce cher Pierre que tu mentionnais, Ben, parce que effectivement je fais partie, mais c'est des joueurs très clivants, les Harden et Westbrook notamment, pour citer eux, puisqu'on se souvient de ce fameux podcast sur le top de la décennie. Vous aviez adoré ma place d'Harden. Voilà, je suis pas très fan de ces joueurs là et je trouve que même Westbrook, je vais y aller, je vais le dire comme dans la conversation parce que tout le monde l'attend, je trouve même que Westbrook en 2020-2021 n'est plus un joueur positif en tant que franchise player option numéro 1. C'est à dire que par rapport à son niveau actuel, il demande trop de choses, trop d'adaptation à ton équipe. Tu dois trop t'adapter à son jeu, à lui, pour un apport que j'estime personnellement plus suffisant. Mais je pense que je suis pas tout seul, parce que c'est quand même un joueur qui clive, on va dire. Et puis si je devais en rajouter une juste comme ça pour la balancer, Zach LaVine est un meilleur joueur que Bradley Beal. Je t'en prie, Diane, c'est à toi.
Difficile de rebondir après ça, mais je pense que je vais me faire insulter.
Vas-y quand même tranquille, hein, vas-y quand même.
Ouais,
tranquille,
hein. Vas-y,
ouais, je vais choisir mes mots.
J'ai l'impression que je suis avec mon petit frère.
Je trouve qu'on surestime le niveau de Tony Parker en France. Je m'attaque à un truc un peu sacré, mais...
Ah, la tête du mec.
Mais globalement, en fait, j'y ai beaucoup réfléchi et j'ai été beaucoup traumatisé par un joueur espagnol, et ça m'a amené une réflexion qui a commencé à mûrir, etc. Et j'ai regardé, par exemple, c'est assez incroyable qu'un Français ait pu devenir MVP des finales, mais je pense qu'il aurait jamais pu faire une meilleure carrière que celle qu'il a fait au vu de son niveau, de son talent, etc. C'est-à-dire qu'il a maximisé absolument tout ce qu'il pouvait faire dans la NBA, je le félicite pour ça, en termes de nombre de titres, avoir réussi à choper un MVP des finales. Quand tu regardes les MVP des finales des 35-40 dernières années, à part Iguodala et Mr. Big Shot, avec qui ça peut se discuter sur qui est le plus fort des deux, ben en fait, il fait partie des trois MVP des finales les plus faibles en termes de niveau. Est-ce qu'on se dit que Kawhi Leonard est devenu un autre joueur depuis son titre de MVP des finales? Il aurait pu sinon se joindre à cette conversation. Mais en fait, avoir eu un MVP des finales, c'est absolument lunaire pour un joueur de ce niveau. Et c'est presque une anomalie historique. Et il a fait une carrière énorme, une carrière magnifique. Je pense que par exemple un joueur espagnol qui nous a mis la misère du côté du nord de la France à un moment, bah je pense qu'il est plus fort et que il a moins maximisé sa carrière.
Quoi ? Il aurait dû être MVP des finales en plus en 2010.
Ouais.
Il est meilleur qu'Obi.
Et typiquement, il a récolté tout ce qu'il pouvait récolter. Tony Parker, il aurait jamais pu récolter plus, mais je pense pas qu'il est meilleur. Et je trouve que du coup on surestime son niveau. Alors il a accompli de grandes choses, mais en fait quand tu regardes les faits, quand tu regardes son niveau de jeu, etc., est-ce qu'en première option c'est un joueur qui t'amène au titre? Il a bénéficié de conditions quand même très 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 favorables, et du coup bah, je trouve qu'on surestime un peu son niveau par rapport à ce qu'il est réellement. Mais c'est un énorme joueur, mais il y a un petit décalage.
Après, c'est l'histoire de la NBA, hein. C'est toujours le prisme a posteriori.
Puis on est français, tu vois.
Mais...
On est français, c'est de l'émotionnel.
Mais ça, on va y revenir juste après. Ça, je vais en parler des Français. Mais je ne sais pas si quelqu'un veut ajouter quelque chose parmi vous sur le sujet Tony Parker, ou on va laisser Madiane s'occuper tout seul avec.
Le problème, c'est qu'à cause de Madiane, la Fédé, elle ne va pas nous envoyer des places gratuites, quoi. C'est fini.
Sachant que les Français ont tous, il y a deux agents qui représentent tous les Français. On est carbonisé. C'est bon.
On remercie Sekou d'avoir changé d'agent du coup. Enchaînons. On s'est fait assez d'ennemis maintenant, mais on va garder.
Dans le Texas, je crois que Madjan et moi, on peut plus aller dans le Texas.
Vous êtes attaqué à Dirk et Tipeee, là, vous avez deux icônes, ouais, du Texas. C'était pas bon. Mais on va rester dans la sphère française quand même sur la question d'après, l'avant-dernière, la quatrième. La question, c'est la suivante: qu'est-ce qui vous surprend le plus dans la sphère NBA française? Et du coup, eh bien, la question, je vais la poser à Tom qui se fait discret, qui essaie de pas trop se faire d'ennemis aujourd'hui. Il est malin.
T'as vu avec le recul, hein? T'as vu avec les autres techs, avec le recul, elle est pas si.
Hélas, hein.
Le grizzly est un nounours.
Hélas, je t'en prie, Tom, te laisse pas déconcentrer.
Moi, je dirais, moi, ce qui me surprend le plus, c'est vraiment entre la dualité de certains fans de franchise qui sont contents de signer des mecs au minimum et qui se plaignent qu'ils sont pas bons. Moi, c'est un truc que je trouve scandaleux.
C'est-à-dire que,
par exemple, l'année dernière, Kendrick
ah,
Nunn.
Ah, tu penses à la même chose.
L'année dernière, Kendrick Nunn, toute l'année, ouais, il est au minimum, il est au minimum, il est au minimum, il est au minimum. En finale, il est pas bon, personne n'a dit qu'il est au minimum. Tu vois, tu peux pas être content de faire des bonnes signatures et oublier que ce sont pas les contrats qui sont sur le terrain et que ce sont des joueurs. Et après, quand les joueurs qui sont au minimum ne sont pas bons, puisque généralement, les joueurs au minimum, faut pas se leurrer, sont des 10e, voire 9e joueurs de rotation. À partir du moment où ils sont pas bons, tu peux pas, tu oublies le contrat du joueur et tu dis juste que le joueur n'est pas bon. Mais si le mec est au minimum, il y a bien une raison. Donc moi c'est un truc que j'ai du mal à m'expliquer et aussi le fait de comment dire de toujours vouloir chercher le surcotage entre guillemets des joueurs avec un faible usage et un haut taux de true shooting. Ça c'est un truc le volume,
surtout quand c'est des intérieurs.
Le volume ça compte, le volume ça en NBA, enfin certes c'est pas joli entre guillemets, mais je trouve que le volume ça compte et pouvoir se créer et pouvoir prendre des shoots sur un terrain NBA, ça se mérite. Et au bout d'un moment, si t'as 15 de usage et 60% de true shooting et que t'as pas plus de usage, c'est que soit tu prends que des shoots propres qui te permettent d'avoir un autre shooting et du coup, enfin, c'est comme si tu fais une passe à 2 mètres quoi. Enfin, il y a très peu de difficultés en fait dans ce que tu fais. Et c'est pas parce que tu as un faible usage et une haute efficacité que tu es forcément un cadeau offensif de la ligue.
Très bien, voilà pour Tom. Écoutez, Alan, allez tiens, à toi. Dis-nous qu'est-ce qui te surprend du côté de la sphère NBA de France.
C'était un truc que j'avais du mal à matérialiser et que c'est en parlant, je crois qu'on était sur la conversation, il y avait avec Ben, Tom et il y avait peut-être même Ilias quand on parlait de ça, et j'ai réussi à le matérialiser dans une phrase pas très française, mais c'est qu'en gros pour moi le titre c'est un truc de superstar de troisième contrat. Je pense que les gens n'ont pas assez encore. Je vois des gens, quelques fans qui ont critiqué par moments les finales de conf de Jason Tatum. Je vois par exemple il y a Jokic qui s'est fait taper dessus un tout petit peu en moment en finale de conf parce qu'il prenait pas l'ascendant dans les finales de conf. Pour moi le titre c'est un truc qui est réservé à Kawhi, KD, LeBron, c'est ces trois mecs là qui décident qui gagne le titre. C'est entre ces trois mecs là et j'ai l'impression que c'est pas encore que des gens pensent que bah peut-être que une jeune équipe, une équipe menée par un joueur très fort mais peut-être dans ça toujours son enfin, voilà son fin de contrat rookie ou début de deuxième, mais je mets même le deuxième contrat. Moi pour moi c'est cette année le titre, pour moi c'est entre les Lakers, les Nets, les Clippers et peut-être Milwaukee, mais je vois pas d'autres équipes malheureusement qui peuvent se mêler à cette course là. Et donc en fait j'ai l'impression qu'avant chaque début de saison il y a peut-être trop de prétendants, trop des gens peut-être voir des prétendants trop différents, alors que pour moi le cercle est super restreint parce que le titre c'est un truc qui se gagne quand t'es une superstar et que t'as plus de 8 ans dans la ligue. Donc c'est un truc qui me surprend un peu. Je parle de Tatum parce que j'ai vu des gens mais Tatum était dans sa troisième année, il aurait jamais battu LeBron, en finale c'est pas possible.
C'est une anomalie. Si t'arrives à faire ça. Alan un peu en guerre contre le romantisme dans la NBA en ce moment, très très pragmatique. Mais tu vas pas se faire que des potes à
Et ça je le suis devenu, ça pour répondre à la première question, je le suis devenu aussi grâce à en analysant, en parlant avec Ben, pas beaucoup avec Tom aussi, avec Pierre aussi, parce que quand Durant a quitté OKC et tout ça, mais on a réfléchi sur tous ces sujets-là. Qu'est-ce que ça veut dire gagner un titre? Quand est-ce qu'on gagne un titre? À quelle période d'une carrière on peut vraiment aller gagner un titre? Et ça m'a fait évoluer, c'est quelque chose qui me surprend encore dans la tu vois, on parlait Embiid, je parle plus grand fan d'Embiid. Embiid s'était fait un peu taper dessus quand ils sortent avec les Sixers, mais tout avait été bien fait pour les Sixers, ils sortent, mais voilà, c'est pas encore le temps de jouer à l'Embiid. Les timelines, les contextes, tout ça c'est hyper important, je trouve.
Ouais. Non mais je suis d'accord avec toi, mais je rajouterais juste moi dans ce sphère-là, je te donne la parole Ben après, je t'ai vu, on juge beaucoup les carrières sur les titres. C'est un sujet qui revient régulièrement. On en parle beaucoup de juger certaines carrières sur des titres. Effectivement, les timelines, elles sont pas si grandes que ça pour les joueurs majeurs, hein, parce que là, on parle des joueurs majeurs de NBA. Et effectivement, il y a souvent, il y a peu d'élus en fait au final. Donc c'est pas une honte de pas aller au bout pour tout le monde. Voilà, c'est juste la petite nuance que je voulais amener. Ben, je t'en prie.
Non, c'est juste par rapport à ce qu'a dit Alan que je. enfin une analyse à laquelle je souscris. Notre plus gros bad buzz, on va dire notre plus gros bad buzz de 2020, c'est quand on dit en gros je sors, c'était un peu un test grandeur nature, on va être honnête, je sors une phrase pour dire en gros que j'avais dit dans un podcast, la même qu'Alan en fait, le titre première option c'est Durant, Kawhi, LeBron. Gros bad buzz, les gens disent vous dites n'importe quoi, bah bref, c'est Twitter, tu peux pas discuter. Et à l'image de Twitter, comme d'habitude, on balance l'épisode quelques jours après. On n'a pas vu une seule réponse, en fait. Il n'y a pas d'arguments structurés qui peuvent nous montrer, on nous dit, ah, vous lisez juste les MVP des finales. Or, déjà, c'est quand même un petit peu marquant que les mecs se partagent les MVP des finales depuis 10 piges, peut-être. Vous pouvez peut-être comprendre un truc. Et autrement, enfin, il n'y a pas d'arguments structurés qui peuvent te prouver le contraire, en fait. Comme quoi, ces mecs-là ne se partagent pas le titre. Donc, c'est un peu ça. Ouais.
Très bien, très bien. Je vais donner la main à Ilias. Que je vois commence à avoir la main sur le côté de la joue là. Vas-y, enchante-nous. Qu'est-ce qui te surprend?
Ça concernerait la frange un peu des anciens à laquelle j'appartiens sur Twitter et cette espèce en fait de conservatisme de mecs en fait qui veulent toujours pas évoluer avec le jeu et le sport qui suivent maintenant depuis presque 30 ans. C'est-à-dire que dans leur opinion, ils ont beau consommer du basket au quotidien, toujours suivre leurs équipes, ils restent persuadés que le jeu des années 90 ou 2000, c'est quelque chose de supérieur au jeu actuel. Tout simplement parce qu'il y avait cette espèce de d'intensité qui s'invente autour du jeu de ces années-là. C'est pas que le jeu était plus physique, c'est juste qu'il était peut-être un peu plus permissif. Mais en termes d'intensité, ce qu'on a aujourd'hui, c'est très très violent. En ce moment, c'est pas forcément le cas. On n'est pas trop dans l'actu de l'intensité. Quand on voit certaines équipes jouer, c'est pas trop le cas.
On a une année particulière.
Voilà, c'est ça. Et bien souvent, en fait, le terme qui revient chez ces gens-là, c'est oh mais regarde les Warriors, regarde les Bucks, regarde les Rockets, ça fait que shooter à 3 points. Comme si en fait, le fait d'avoir des pluies diluviennes de bombardements à 3 points comme on en a eu la veille lors du Milwaukee-Miami, où Milwaukee a battu le record NBA avec 29 tirs à 3 points. Comme si en fait, le fait de retourner en arrière et de voir en fait des jeux au poste de Mutombo qui tape des hookshots, c'était quelque chose de plus spectaculaire. Donc non, enfin, je pense qu'il y a une espèce de romantisme qui s'est installé et je pense qu'à l'image des superstars, on a commencé en fait à se porter un peu trop garant d'une certaine époque, de certains joueurs, de la legacy de certains. Et voilà, donc je ne vais pas m'épancher en prenant des cas particuliers, sinon là c'est clair que ça va être Hiroshima sur Twitter.
J'ai vu que ça veut réagir à droite, à gauche. Vas-y Alan, je t'en prie, commence.
Non, je vais juste faire rapidement, mais ça c'est un truc dans l'histoire. C'est toujours mieux avant, de toute façon.
Ouais.
Les Romains, c'était toujours mieux avant, 30 ans avant. C'est toujours mieux avant. Donc, de toute façon, on peut rien faire avec ça. Et surtout, moi, sur l'intensité, les gens critiquent beaucoup des fois la saison régulière et ils mettent en avant en exergue les playoffs des années 90. Je suis pas persuadé, je suis pas sûr que tous ces gens aient vu tous les matchs de saison régulière des années 90. Il y avait sûrement aussi des matchs avec pas d'intensité, mais on aime toujours mettre en avant quand il y avait l'intensité.
Juste une question piège. Attends, Ilias, il y a Badiel qui voulait réagir, mais j'ai une question piège pour toi, Ilias, comme ça tu peux rebondir. Est-ce que le rap c'était mieux avant?
Ah, ça c'est sûr. Et le pire, c'est que ça se discute pas. Donc en gros, il n'y a même pas de débat à poser ou de conversation à lancer. C'est sûr que non. Je vois ta tête, Ben, commence pas. Après, autre chose, concernant ce qu'on était en train de dire, d'ailleurs, vous remarquerez que la mécanique des personnes qui pensent que c'était mieux avant concernant le physique, l'intensité, c'est que pour t'imager la chose et pour te prouver que c'était plus physique et plus rugueux avant, ils te balancent des images de baston.
Ouais, le palace.
Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Pourtant, moi, je suis fan d'une équipe qui a eu, en tout cas en son sein, dans son histoire, l'équipe la plus violente qui soit. Mais crois-moi que quand tu remates certains matchs, certes, Détroit était rugueux, dur, intense, mais c'est pas pour autant qu'aujourd'hui, quand tu vas regarder certains matchs de play-off, récemment, je m'étais refait, par exemple, le match 7 des finales NBA 2013 entre Miami et San Antonio, mais l'intensité... Je crois que faut vraiment dire à ces gens-là d'aller remater ce match-là. C'est incroyable. Chaque panier doit être mérité.
L'intensité, c'est pas que le contact physique, c'est ça aussi. C'est sur la définition du terme d'intensité. Mmh. Une intensité physique. Faites un sprint, vous allez être contre personne, c'est intense. Donc voilà. Madiane, ça fait un petit moment que t'as pas eu la parole alors que t'avais levé la main, donc je vais être un professeur équitable. Madiane, je t'en prie, c'est à toi.
Non, mais c'est une affaire de souvenir aussi. C'est-à-dire que on regarde toute une saison. Honnêtement, le vieux Knicks Bulls, je vais pas m'en souvenir. Par contre, le match qui aura été cool, genre le OKC Warriors d'il y a quelques années, bah ouais, je vais m'en souvenir. Et forcément, en fait, quand on vieillit, quand on grandit, on garde que les meilleurs souvenirs parce que ce qui est nul, en fait, on a complètement oublié que c'était nul. Mais si tu te retapes 82 matchs de la saison 89-90, oh, à mon avis, il doit y avoir deux sacrées purges là-dedans.
Mmh. Ouais, c'est sûr. Après, pour nuancer un peu le côté... tu sais, sur les trois points que t'évoquais, Elias, les trois points face au hookshot de Dikembe Mutombo, c'est vrai que le jeu au poste, il divise. On va dire que c'est quelque chose qui n'existe presque plus dans l'NBA moderne, pour plein de raisons qui se justifient totalement d'un point de vue statistique, mais qui manque à certains, puisqu'il y a une certaine esthétique, une certaine technicité au jeu au poste.
Comme pour les coachs.
Effectivement.
Les coachs et le jeu au poste.
Personnellement, moi, j'estime par exemple que Hakeem Olajuwon, bien... qu'il soit un poste 5 est un des plus beaux joueurs de l'histoire à regarder jouer. C'est-à-dire que quand tu fais la combinaison taille, poids et capacité athlétique, ce qu'il était capable de faire sur un terrain, franchement, c'est du jamais vu et je me demande si on le reverra un jour. C'était un autre temps, mais moi, ce que j'aime pas, c'est justement qu'on mette en opposition les époques, sachant que c'est pas du tout pareil. Et malheureusement, on a commencé à avoir certains ayatollahs qui étaient prêts à te dire que, par exemple, LeBron n'y met pas 20 points dans les années 90. Ou que, par exemple, Dominique Wilkins, de sa propre bouche, a dit qu'il tournerait à 35 points ou 40 points par match. S'ils revenaient à notre époque.
Ouais. Oui, non, mais les anciens joueurs et leur point de vue sur leur propre époque, c'est encore autre chose. Mais je pense qu'on
les bras en tombe.
Le problème, c'est que Wilkins, c'est l'idole de certains fans de cette époque, et eux vont se baser là-dessus pour pouvoir étayer leurs propos. Donc, il faut qu'ils arrêtent.
Voilà, c'est la conclusion pour ce point-là. C'est vrai qu'on s'étend, on va dépasser un peu le chrono. C'est le dernier podcast de l'année, forcément. Ben, je t'en prie, je t'avais vu il y a quelques
Ah non, parce qu'en fait, j'ai pas pu dire le mien, c'est pour ça.
Ben donc... oui, non, mais c'est pour ça. Mais je crois que.
Et Madiane non plus.
Madiane,
non, Madiane non plus. Hein.
Ouais.
Voilà,
non, c'est juste. Donc, par rapport à ça, je veux juste. Parce que j'ai. Bon, comme on l'a dit au début, on peut pas dire tout ce qu'on a travaillé. J'avais travaillé pas mal de trucs sur l'évolution dans l'histoire de la NBA. Et les joueurs n'ont jamais été aussi, entre guillemets, petits depuis les années 80. Ils ont jamais aussi été aussi légers et avec aussi peu de masse graisseuse, en fait. Donc, l'argument, ce sont des athlètes, d'un point de vue athlétique, purement athlétique, qui ont jamais été aussi forts. Ça, c'est un fait, en fait. Ça, c'est pas démontable. Enfin, ils sont, et ensuite, pour rebondir par rapport à ce qui a été dit, moi, ce qui m'étonne le plus, en fait, c'est le romantisme. Il n'y a pas de caractère froid, en fait. Alan le dit parfois en football américain ou dans d'autres sports, j'ai un rapport au sport qui est extrêmement froid, calculateur, utilitariste. Par rapport à si on fait de la philosophie, en fait moi je m'en fiche complètement de la façon dont je gagne, si je gagne en fait, enfin si par rapport à mon équipe, le hookshot d'Olajuwon par exemple, en fait concrètement c'est subjectif de croire que c'est mieux que le shoot de Michael Kidd-Gilchrist, tu vois. C'est alors qu'en réalité, c'est
qu'est-ce que le beau,
tu vois. Depuis Alan a parlé des Romains, je vais parler des Grecs. Depuis les Grecs, on se dit c'est quoi le beau. Enfin moi, par exemple, dans certains sports, j'estime que la défense c'est plus beau que l'attaque. Enfin, football américain, j'estime que la défense c'est plus belle que l'attaque. Foot, j'estime que défendre c'est plus beau qu'attaquer. Basket, c'est un peu plus différent. Mais bref, pour moi c'est ça en fait. Ce qui me surprend dans la sphère NBA française, c'est il y a ce romantisme, faut drafter l'équipe. Ça existe un peu aux États-Unis, mais nous c'est totalement exacerbé. Il faut gagner avec des systèmes, etc.
Avec panache.
Faut gagner avec panache. Quand LeBron et Kyrie mettent 40, c'est pas bien. Faudrait faire des systèmes. Non, ils ont mis 40 pions chacun en finale NBA. Je m'en fiche complètement. Ils ont gagné le match. Donc ce romantisme, moi, ça me
faut gagner le match, hein, parce que si tu mets 40 chacun et que tu perds, ça
devient compliqué. Mais franchement, cet attachement à la manière qui est totalement exacerbé, moi, ça m'énerve.
Après, moi, je vais défendre les romantiques un peu du point de vue des fans. Puis c'est aussi pour ça qu'on aime un peu le sport. C'est aussi pour les histoires et puis certains, voilà, un certain romantisme.
J'aime que gagner.
Et après, oui, mais Tu aimes gagner, mais je vais te réattaquer frontalement. Mais tu aimes gagner, mais tu ne supportes personne. Donc forcément.
Oui, mais tu vois, dans d'autres, d'où mon argument, dans d'autres sports, je suis, alors je vais l'avouer, je suis supporter de Marseille, je suis un des rares supporters de Marseille. L'époque Bielsa, je regarde les résultats, en fait. Enfin, concrètement, l'époque Bielsa, elle a fait rêver les mecs de Marseille. Madiane, il tourne la tête.
Rudy Garcia à Bielsa.
Je regarde le résultat, en fait. Moi, je suis extrêmement, je le dis. Alan peut confirmer, en football américain, c'est pire. Je suis froid comme une lame, en fait, dans mon rapport au sport.
En fait, le problème, c'est que ce qui est demandé, c'est ce qu'il y a en fait de plus dur à mettre en place, c'est-à-dire concilier les victoires avec la manière. Historiquement, c'est très très rare que ce soit en basket ou même en foot. Par exemple, des équipes comme celle de Guardiola à l'époque du Grand Barça, on en a vu quasiment qu'une ces dernières années, ou en tout cas, t'en as peut-être une toutes les 20 ans en foot. C'était
et elle s'est vite caricaturée et devenue un jeu
et d'autres,
beaucoup qualifié de moche.
Et d'autres vont trouver ça par leur goût.
Voilà, ils vont trouver que c'est du hand, que voilà, ça fait que tourner autour du pot. Et t'as d'autres personnes qui vont être plus fans du jeu de Liverpool, qui est plus direct et plus tranchant. Je pense que c'est une question de goût et de couleur, et en tout cas, Ben a raison de le soulever.
Très bien. Eh bien, Madiane, c'est à toi. Tu as été plutôt sage dernièrement. Qu'est-ce qui, toi, te surprend dans notre chère sphère NBA française ?
Je suis très surpris par l'assurance qu'on affiche parfois, enfin, sur plusieurs aspects. Déjà, j'ai l'impression vraiment qu'on prend les Américains pour des gros tocards sans rappeler que c'est leur sport à eux et que c'est eux qui dominent, en fait. Et qu'en vrai, on n'a pas de leçon à leur donner. Enfin, je trouve vraiment qu'on a... ils font des conneries, ils ont des défauts. Enfin, faut qu'on se regarde aussi. Et je trouve que parfois dans la sphère française, on prend les Américains pour des abrutis.
Sur la draft, je pense.
Et ouais. Ils le sont pas. Ils le sont pas. Moi, je me souviens d'un truc. C'était Frank Ntilikina. Il est drafté et ils affichent en statistique bust potential 53%. Et t'avais toute la sphère NBA française. Mais c'est un scandale. Mais c'est un scandale. Là, il n'est pas à 53% le curseur, il commence à monter. Et ça
il est redescendu hier soir.
Non, mais enfin voilà, il y a des choses et il y a un truc qui est important et c'est Ben a évoqué Tyronn Lue. Il y a ce qu'on appelle les espèces de maîtres à penser. Il y a un mec qui a dit un jour que Tyronn Lue était un tocard. Il y a tout le monde qui le répète. Il y a personne qui dit pourquoi.
C'est moi qui ai dit ça.
Je ne crois pas que tu es celui qui a influencé toute la sphère française de la NBA, mais par exemple, Tyronn Lue a une image désastreuse en France comparée aux États-Unis.
Il y a des
faciès
sur Tyronn Lue aussi avec un mème où il a une tête un peu ahurie.
Mais je comprends pas ce qu'il leur a fait. Et ils le prennent pour un pimpin. Le gars, il est champion NBA avec les Cavs. Et les gens le prennent pour un pimpin. C'est incroyable. Enfin.
Il y a le délire à Iverson.
Il y a aussi ce qui s'est passé avec Blatt juste avant où Blatt c'était
Il venait d'Europe donc
voilà
quoi,
il venait d'Europe tu vois
mais ça en fait pas pour autant un tocard fini et je pense qu'il faut quand même mesurer un peu et il passe pour un tocard et c'est juste parce que quelqu'un l'a dit et je trouve qu'il y a parfois des choses des takes des phrases des mecs qui se tapent des réputations dans la sphère française de la NBA qui le méritent pas forcément juste parce que il y a quelqu'un qui l'a dit, et puis du coup, c'est ce que disait Étienne Klein, c'est l'ultra crépidarianisme. C'est je mesure pas mon incompétence vis-à-vis d'un sujet, le maître l'a dit, donc je répète ce qu'il a dit sans exercer mon esprit critique sur ce qu'il vient de dire. Enfin, il y a quand même beaucoup de choses de ce type, et ça concerne pas que la NBA, mais sur la NBA, il y a quand même pas mal de choses très bizarres en termes d'opinion en France, et quand tu passes de l'autre côté, côté Atlantique, de l'autre côté de l'Atlantique, tu vois qu'il y a certains trucs en France où... Enfin, on est chelou, hein.
Sur certaines opinions. Aussi chez eux. Mais Alan, je t'ai vu lever la main, tu voulais réagir au mieux.
Ouais, et juste sur ça, sur Lou en plus, vu qu'il a coaché LeBron, et qu'après, il n'a pas coaché une équipe mauvaise sans LeBron et qu'il l'a fait réussir comme Spoelstra, il n'aura jamais le biais du « Ah, mais il peut réussir sans LeBron », parce que là, qu'est-ce qui se passe si les Clippers gagnent ? Ça ne sera pas Lou.
C'est Kawhi
et Paul George. Tu vois, ça sera ça. Là où Spoelstra, qui a énormément de crédit, lui, et à juste titre, c'est un excellent coach. Lui, il a réussi à amener Miami en playoff avec une équipe moribonde, il a réussi sans tout ça. Donc ça joue. Et en fait, on juge beaucoup les coachs sans En fait, on juge les coachs en fonction de leurs équipes quand ça nous arrange pour notre avis. C'est-à-dire que quand on l'aime pas, bah c'est parce que soit il est mauvais avec une mauvaise équipe, soit il est bon avec une bonne équipe. Mais ça sera jamais l'inverse. C'est des choses binaires comme ça. Ouais. Donc c'est assez binaire comme.
Bah, tu vois, on peut prendre juste l'exemple de Frank Vogel. Hein. Frank Vogel dans son passage, il a un passage à Orlando. Frank Vogel, il a pas fait Indiana Lakers. Hein. Il y a un passage de Frank Vogel à Orlando et ça s'est pas forcément bien passé.
Ouais.
Et puis pas comme par hasard, tu vois, il est coach aux Lakers, il gagne le titre. La narrative sur lui a totalement changé. Quand tu prends ce qu'il s'est dit.
Ouais, mais les gens disent que c'est LeBron.
Oui, c'est ça. Ça a pas changé sur Vogel. Hein. Vogel, on pense que c'est un gestionnaire en fait.
Alors qu'il a imposé des idées extrêmement intéressantes.
Je pense que Vogel, il a plus de crédit pour ce qu'il a fait à Indiana plutôt que son titre aux Lakers.
Alors que Vogel, quand tu regardes les analyses, c'est pour ça que je levais la main, quand tu regardes les analyses statistiques, Vogel, c'est un des mecs qui fait le plus surperformer ses équipes à travers l'histoire. Genre récemment, il est dans le top. Genre plus que Stevens ou Spoelstra, tu vois, statistiquement. Alors que personne parle de Vogel dans ces termes-là.
Ouais.
Oui, mm-hmm. Mais en même temps, il n'a pas le discrédit qu'a Lou non plus parce qu'il bénéficie de ses expériences précédentes où on lui accorde le fait d'être au moins un coach correct de NBA, voire un coach bon. Mm-hmm. Donc ça lui permet de.
Mais moi, je réfléchis toujours, qu'est-ce que Lou a fait de mal?
Il fait pas de système.
Il fait pas de système.
On y revient, il a des équipes de stars et il a laissé jouer ses stars. Comme disait Ben, ils ont mis 40 pions chacun.
Les gens oublient qu'il change son line-up en finale 2016. Ouais. Il inclut Richard Jefferson, il joue plus petit pour s'adapter à comment joue Golden State en face, mais ça, personne ne va jamais le dire.
Quand il fait jouer des Channing Frye que des shooters avec LeBron, c'est des idées. C'est pas un système, mais c'est des idées de jeu.
Mais le récit autour de cette équipe des Cavs, elle est insupportable. LeBron GM pour retirer du crédit à Griffin, LeBron coach pour retirer du crédit à Lou. Quand il y avait des dysfonctionnements, c'était tout sauf LeBron. Le récit autour de cette équipe, il est nauséabond, vraiment.
Ouais.
C'est la réputation de LeBron. Et puis, j'y vais pour moi pour répondre à cette question. On en a encore une derrière, faut qu'on avance. Donc moi, ce qui me surprend dans la sphère NBA française, et je vais aller un peu à contre-courant, parce que pour moi, c'est l'anti-chauvinisme. Alors, on nous taxe souvent d'être très chauvin avec les Français. On parlait de Frank Ntilikina. Ils existent. Je ne nie pas qu'il y a des gens qui ont un billet sur « ils sont français » ou « ils sont européens », comme disait Ben juste avant. Et tout de suite, on dit « bon, ils ont des fondamentaux incroyables. Ils ont appris le vrai basketball, contrairement à ces Américains qui ne savent jouer qu'en 1 contre 1. »
Voilà.
Européen de service.
Je trouve que c'est… En fait, il est axé, ce chauvinisme-là, il est presque européen. Il n'est pas seulement français. C'est-à-dire qu'on a un billet de confirmation sur les Européens qui sont toujours bons, Porzingis quand ça pleure à New York et qu'après qu'il est un peu bon, tout le monde est content, Luka Doncic, etc. Par contre, je trouve qu'on sait aussi, on aime bien récemment un peu dévaluer quand les Français font de belles choses. Et je pense notamment à Rudy Gobert, bien sûr, Tom, qui est un excellent joueur de NBA et qui a mérité.
Vous nous énervez notre Tom, les gens énervent notre Tom. Après nous, il est apeuré avec nous sur notre conversation.
C'est un peu ça. Et je trouve que parfois, je trouve que c'est pas mauvais de d'être fier, de féliciter les basketteurs français, de s'en féliciter d'une certaine façon, même si évidemment on n'y est pour rien et que cette formule de s'en féliciter, je m'y ferai jamais. Mais je trouve que parfois on est très très dur avec les joueurs français. Surtout parce qu'ils sont français et on accuse en se disant « Ouais, il y a cette accusation de chauvinisme sur certains en disant « Vous le défendez parce qu'il est français ?» Non, parfois on le défend juste d'un point de vue où on tente d'être le plus objectif possible. Et il y a certains joueurs français qui ont une meilleure cote aux États-Unis qu'en France. Et c'est le cas notamment de Rudy Gobert. Et j'ai vu des doigts se lever de partout. Le premier que j'ai vu, c'est celui d'Alan. Donc,
ouais, je t'en prie. En 10 secondes, ce matin, j'ai lu sous un commentaire « Kylian Hayes, pire bust, il n'a pas le niveau Pro B. » Voilà.
Après, faire attention à un commentaire d'un hurlu.
Bien sûr, ouais. Bien sûr, mais
attention, hein. Tu vas falloir que tu me donnes
l'adresse.
Madiane, ouais, vas-y.
Non, mais en fait, c'est qu'il y a deux choses. En fait, c'est qu'il y a des gens qui vont aller nous survendre des joueurs qui n'ont pas forcément le niveau, et du coup, face à ça, en fait, c'est un phénomène de réactance où des gens vont faire exprès de chier sur la gueule de joueurs français parce qu'ils sont français et qu'ils savent que les autres vont essayer de les surévaluer. Non, moi je donne un autre exemple. Je trouve qu'Evan Fournier, putain, à Orlando,
il est solide, Fournier.
C'est solide,
ouais,
ce qu'il fait.
Il est solide, Fournier.
Mais vraiment, je pense que je le verrai jouer dans beaucoup d'équipes, en fait, avec ce qu'il apporte, etc. Et ben, ça, tu regardes France, tu regardes la réputation, le délit de faciès qu'il peut avoir. Franchement, il se fait des fois chier dessus. Je fais, les gars.
Batum aussi. Batum
a mérité un moment au Hornets, mais ce qu'il fait là visiblement sur ses débuts de saison, bah, j'espère que ça continuera. C'est plutôt
mais franchement, j'y crois.
Batum de Portland et début de Charlotte, c'est un vrai bon joueur.
Ah, oui.
Après Fournier, c'est aussi parce que il est dans cette situation où c'est un fort titulaire, mais pas une super star. C'est des types de joueurs qui sont jamais estimés en fait. Les joueurs à la Fournier, il aurait pu être portoricain, il aurait pas été estimé en fait.
Bah après, je pense que c'est aussi à cette. Vas-y.
Il y a cette forme de vente d'espoir, la notion que t'avais évoqué Ben, et il y a un peu de ça aussi quand on est français, c'est quand il y a un très jeune, on a envie de le survendre en disant voilà, ça va être lui la prochaine superstar, et si le gars a été une superstar, a fait une très belle carrière à l'image d'un Tipeee, on va en être très heureux. Et si par contre c'est un peu en deçà, même si elle est plus que correct, pour reprendre l'exemple de Fournier, et ben finalement en fait on le met de côté, c'est même plus on le critique, c'est genre on le mentionne même plus quoi, genre Evan Fournier c'est normal, il fait son truc dans son coin et puis et puis peu importe, on va plutôt se tourner vers les nouveaux jeunes en se disant ah là vous allez voir.
Après le truc c'est que les nouveaux jeunes ils arrivent avec un statut de haut drafté, Nilikina il arrive en 8, Kylian Hayes on va en attendre encore plus, donc on verra bien, mais c'est pour ça que moi j'aborde toujours de manière assez positive les compétitions internationales, parce que c'est une sorte un peu de cesser le feu. Voilà, du coup tout le monde est sous le même maillot, tout le monde supporte la même équipe, et il y a cet aspect positif en tout cas.
Tu voulais dire quelque chose Tom du coup parce que je t'ai coupé.
Ah oui, par rapport à Fournier, je pense que là il y a aussi la notion contractuelle en fait, qui surtout dans la sphère française, les joueurs sont souvent attachés à leur contrat. Et on dissocie. Parfois, t'as des joueurs qu'on fait passer pour des mauvais joueurs parce que simplement ils ont un mauvais contrat, alors que ce sont des bons joueurs. C'est juste que le contrat et la valeur marchande du joueur n'est pas haute. Mais tu vois, par exemple, un mauvais joueur qui est payé en dessous de sa valeur, ça reste un mauvais joueur, tu vois. Alors qu'un bon joueur qui est payé plus que ce que tu pourrais avoir pour l'échanger, ça reste quand même un bon joueur, c'est juste son contrat qui est mauvais. Et ça, je pense que c'est quelque chose où la dissociation se fait très peu, en fait, entre le contrat, la valeur du joueur dans l'effectif et le niveau du joueur sur le terrain.
On attache le contrat, c'est sur le front. Mmh. C'est ça,
les deux sont ensemble.
Après, désolé Adrien, tu ne respecteras pas ce... Après ça, moi
c'est le dernier de l'année. Après, on reviendra dans les timings.
Après ça, j'aimerais toujours bien nuancer parce que à votre travail, s'il y a un mec qui gagne 4 fois votre salaire, vous le savez en fait. Donc il y a au bout d'un moment où concrètement, ça compte quand même. Enfin, surtout dans un vestiaire NBA avec des joueurs ultra compétitifs, le salaire, il est obligé d'être pris dans l'équation. Alors bien sûr, attaché au front du mec et juste le juger à travers ce prisme-là, c'est faux. Mais pour moi, tu t'es obligé. Le contrat, il est extrêmement important dans l'équation.
Oui, mais après, il va amener aussi d'autres questions dont on parlait, de la fidélité, etc. Enfin, c'est tout un tas de questions. On l'a un peu évoqué dans l'histoire des petits et des gros marchés, de que faire de sa carrière, comment valoriser ce qu'on est en tant que basketteur, etc. C'est vrai que c'est une grande question. Et donc, on va quand même aller en direction de cette dernière question en guise un peu de bilan qui est plutôt une question plus légère, je dirais, mais qui est quand même assez sympa et qui est, donc je la pose, qu'est-ce que vous diriez sur la NBA à votre vous-même d'il y a 5 ans? Et je propose de commencer. Tiens Ben, tu avais la parole, qu'est-ce que tu te diras toi-même?
Alors, il va avoir deux Ben. Il va avoir Ben, le fan NBA, et celui, le, entre guillemets, je n'aime pas ce mot, le boss de Dunk Hebdo. Alors, pour le fan NBA, je vais dire juste, tu vas assister à des changements de ouf, parce qu'en fait, quand je parlais des courbes, etc., il y a des trucs de malade. Je passerai le lien sur mon compte Twitter. C'était un article super intéressant qui prenait des courbes depuis les années 80 sur plein de statistiques, le poids des joueurs, les tirs à 3 points, le pourcentage à 3 points, le nombre de tentatives à 3 points, le pourcentage au tir, bref. Et tu vois que il y a plein de courbes où genre en 2015, soit la courbe elle explose, soit elle descend. Genre par exemple les pivots à 3 points, ils font rien pendant 40 ans et puis ils prennent des 3 points en 2015. Enfin genre il se passe trop de changements. Il y a un double phénomène super intéressant, c'est que les joueurs n'ont jamais été aussi petits depuis les années 80. Par contre, les meneurs n'ont jamais été aussi grands de toute l'histoire de la NBA, en fait. Donc, on voit qu'on a ce resserrement autour des mecs à quoi? À 2 mètres et quelques. Et je trouve ça, c'est des changements qui sont palpables. Le tir à 3 points, c'est palpable. Enfin, en quelques années, on voit bien, on regarde les finales 2012 et les finales 2020, on voit que c'est pratiquement plus le même sport. Donc, je trouve que ça, c'est vraiment important. Puis, au moins, d'il y a 5 ans, vu qu'on était fin 2015 et qu'on pensait au podcast, j'aurais dit, prépare-toi, Ben, le podcast, c'est pas seulement s'enregistrer, c'est aussi devenir un espèce de manager, devenir aussi un étudiant d'école de commerce, parce que on révèle pas tout, mais on a eu des propositions ces dernières semaines et tu dois réfléchir à des trucs qui sont pas juste je me pose, je parle de basket et je sors une émission en fait. Donc du coup, c'est ça. Mais clairement, juste prépare-toi, tu vas voir des vrais changements. Et Dwight va gagner un titre.
En plus, encore, effectivement. Hein, non, mais il en a gagné un. Il l'a dit à son lui, il y a 5 ans, que Dwight allait gagner cette année. Donc, je vais poser la question maintenant à Ilias, qui a peut-être plus de recul. Qu'est-ce que tu aurais dit à ton toi d'il y a 5 ans? Qu'est-ce que tu as vu comme changement que tu aurais aimé t'annoncer?
Ben, je lui dirais, supporte une autre équipe. c'est intéresse-toi un petit peu plus à la draft et à la NCAA en général. En fait, c'est quelque chose qui m'a toujours botté, mais pour lequel j'ai pas vraiment eu de temps à accorder. En tout cas, quand je reviens en arrière, je me rappelais pouvoir regarder tous les ans le Final Four, et il s'avère que ces dernières années, j'ai pas eu vraiment l'occasion de le faire, justement par manque de temps. Voilà, maintenant il y a tout un tas de facteurs qui font qu'on a un peu moins le temps qu'avant. Comme la famille et autres, mais en tout cas, enfin, je trouve ça super intéressant, voilà, de suivre l'éclosion d'un joueur et son évolution, voilà, de ses 15-16 ans jusqu'à, je sais pas, le fait qu'il puisse devenir un joueur All-Star voire All-Time. Je pense que suivre tout ce processus, c'est quelque chose d'intéressant, et c'est assez imagé par l'un des membres de notre team, en la personne d'Alan. Tu vois un peu ses yeux briller dès qu'il voit Zion. Tyrese Maxey, il a mis un layup et il a dit « T'as vu, je te l'avais dit. » Donc voilà, enfin c'est assez intéressant, et je pense que j'y prêterai un petit peu plus attention. Et l'autre chose que je lui dirais, je lui disais « Mec, je pense que tu vas pas être prêt, mais d'ici quelques années, tu verras quelqu'un dépasser Jordan. » Et cette chose, je l'ai vue, donc voilà.
Très bien, sans commentaire de ma part. Je vais revenir au coup d'avant. La passe a été donnée à Alan, donc vas-y. Voilà, si on est sur YouTube, pour ceux qui nous écoutent sur les plateformes de podcast, vous voulez voir nos tronches réagir aux différentes takes sur cet épisode. Et donc oui, comme je disais, Alan, la question est pour toi maintenant. Qu'est-ce que tu aurais dit à ton toi d'il y a 5 ans?
Bah, de prendre SP informatique.
Oui.
En option.
De prendre SP informatique, parce que, alors déjà que aujourd'hui j'estime mon niveau faible plus, on va dire.
En progression. Plus.
Voilà. Je sais monter un épisode. Bon, c'est, mais par rapport à là où je suis parti, Ben et Tom peuvent dire que beaucoup de progrès ont été faits. Donc ouais, j'aurais dit ça, c'était la petite note d'humour parce qu'en fait, ces gens se rendent peut-être pas compte, mais ouais, il faut avoir des bases d'informatique pour faire tout ce qu'on fait, en fait. Et moi, j'en avais pas. Enfin, je savais taper un texte sur Word, faire un Excel, envoyer un mail, quoi. Et voilà, mais pas plus. Et sinon, je regardais des matchs de tout le monde. Tout regarder. Les 30 franchises. Il y a des équipes que je regardais pas. Et maintenant, je regarde tout le monde. Parce que je regarde tout le monde, ouais. Et puis... puis c'est tout.
Tout le monde, plus. Tout le monde, hein, parce que même de la D2 tchécoslovaque, non. Là. Ou,
Non, je regarde. Non, ça par contre, c'est vrai, c'est les gens des fois me demandent, je regarde aucun match de NCAA en live. Je fais que du replay pour gagner du temps et pour pas assez.
Est-ce que tu serais pas aussi revenu sur ta take sur Mozgov?
C'était il y a 4 ans. Mais bon, bien sûr, mais comme on l'a dit au début, le nombre de conneries que j'ai dit dans ce podcast. C'est, on les compte sur les, il y a pas assez de doigts des 6 membres du groupe pour dire toutes les conneries que j'ai dit. Donc
et c'est valable pour chaque individu, donc il y a pas de souci.
celle-là est dans mon panthéon.
Ben justement, celui qui avait évoqué le fait de dire des bêtises dans un podcast, Madiane, qu'est-ce que tu dirais à ton toi-même d'il y a 5 ans?
En fait, à ce moment-là, je me lançais à fond dans la NBA et je commençais vraiment à vouloir regarder tous les matchs, tout analyser, etc. C'est vraiment la montée en régime. Et ce que je lui dirais, c'est fais gaffe à tout ce qui peut se raconter, tout ce qui est dit, tout ce qui est même commenté, que ce soit dans un article, pendant un match, ailleurs. Essaye de te forger plus ta propre opinion. Et c'est un truc que j'ai pas fait, donc j'ai souvent répété en guise d'avis NBA ce que j'entendais, sans comprendre, sans essayer de savoir. Et quand j'ai commencé à vouloir un peu plus essayer de me forger ma propre opinion, c'est là où j'ai un peu plus apprécié ce que je regardais et plus développé en fait mon affinité avec la NBA. Donc en fait, au final, j'ai arrêté de regarder ça passivement. J'étais plus actif et j'ai trouvé ça beaucoup plus intéressant d'un seul coup. Donc je pense que je lui demanderai de faire cette transition plus vite parce que c'était pas forcément là où j'avais le meilleur avis sur tout.
À toi, Tom, qui nous a posé cette question. Qu'est-ce que tu avais derrière la tête? Qu'est-ce que tu te serais dit à toi-même il y a 5 ans?
Je me serais dit...
Dors la nuit.
Je me serais dit, quand tu regardes un match, les choses qui n'arrivent pas ont tout autant d'importance que parfois les choses qui arrivent. Je me serais dit aussi que avec les Warriors, plus Kevin Durant, tu auras peut-être la chance de voir l'une des meilleures équipes, ou si ce n'est la meilleure équipe, l'équipe la plus impressionnante de l'histoire, que toi t'es pu voir en vrai, donc profites-en. Et la dernière chose que je me serais dit, c'est arrête de sous-estimer LeBron, il est beaucoup 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 plus fort que tu ne le penses.
C'est parfait, j'allais commencer par là, puisque moi mon adage arrive un peu plus tard avec le fameux titre de Cleveland qu'on a évoqué, ne jamais sous-estimer LeBron James. Donc voilà, j'aurais dû à ce moment-là, je me le serais dit à moi-même, ne le sous-estime pas, tu vas voir. En deuxième lieu, un peu à la même manière qu'il y a, je me serais dit profite, parce que ça va vite tourner. Puisque il y a 5 ans, 2014-2015, ça doit être la toute fin de Thibodeau, bon Derrick Rose qui est déjà blessé, mais il y a encore Joakim Noah, Taj Gibson, enfin le cœur de cette équipe des Bulls qu'on aimait bien, et puis que depuis c'est un peu plus compliqué. Et puis plus sur l'aspect du podcast, il y a ce côté-là. Moi, il y a 5 ans, j'étais, je travaillais dans le jeu vidéo à ce moment-là. Et puis c'est des choses, au-delà aussi, j'ai changé également de travail, donc je travaille à la radio. On l'avait évoqué dans l'épisode 200. Et voilà, tu ne peux parler à d'autres personnes que juste tes potes et les emmerder parce que tes sujets, c'est pas forcément quelque chose qui les intéresse, c'est trouver des gens qui vont pouvoir échanger avec toi. Donc voilà, n'aie pas peur, les gens sont plutôt accueillants, donc voilà, je me serais dit toutes ces choses-là.
C'est ça en vrai. En fait, vous me faites réfléchir, il y a 5 ans, on m'aurait dit Benjamin ou Ben de façon plus naturelle. On va pas donner les chiffres, mais il y a un certain nombre de personnes qui vont genre t'écouter parler NBA avec des énergumènes toutes les semaines. Enfin, franchement, c'est inimaginable. Enfin, ça reste toujours inimaginable et incompréhensible pour moi que des gens allument leur portable sur Spotify, Apple Podcasts, bref, et nous écoutent parler basket parce qu'ils pensent que ça apporte quelque chose. C'est toujours un truc que j'arrive
pas... dans leur quotidien.
Ouais, j'arrive pas à calibrer 4 ans après. Hein. Ça, c'est extrêmement compliqué pour moi.
Incroyable. Ils nous donnent de leur temps.
C'est ça. Merci. C'est l'épisode de fin d'année. Il y a toujours une partie un petit peu violon. Voilà.
Oui, bah oui, forcément. En plus, c'est un épisode d'introspection concocté par Tom notamment. Donc voilà. Donc comme tu disais, Ben, on remercie évidemment tout le monde de nous avoir suivis tout au long de cette année, d'avoir une nouvelle fois en plus propulsé Dunk Hebdo en tête de la catégorie basket sur Apple Podcast. On est aussi disponible. Voilà,
Ben, on est en 2020, c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que ça?
Si vous voulez découvrir ce qui fait rire Tom, il faudra aller voir sur YouTube. On est aussi disponible sur YouTube et on a aussi lancé la vidéo cette année. On est aussi sur Twitter également avec des techs qui vont nous valoir de nouveaux amis. On sera ravis aussi d'accueillir les nouveaux auditeurs puisque avec un peu de chance, on a de nouvelles personnes qui vont arriver. On en parlait dans le dernier épisode avec cette saison donc qui commence un peu en décalé. Merci à vous messieurs, je sais pas si Ben aussi tu veux ajouter quelque chose vu que c'est l'épisode violon de fin d'année.
Non, merci à tous, ça a été une année un peu je pense charnière. En fait, je dis ça tous les ans, hein. Je suis un peu un homme politique, c'est un peu les vœux, faut dire tous les ans que c'était une année charnière. Non, ça
c'est l'université d'été.
Ouais, c'est ça. Non, en vrai, ça a vraiment été une année charnière. On l'a commencé, j'étais à moitié là, pas trop là, donc ça m'a permis de prendre pas mal de recul. On vous l'a dit ces dernières semaines, il s'est passé des trucs, enfin bref, pas mal de réflexions vis-à-vis du podcast, mais ce qui est bien, c'est de voir que les gens sont toujours fidèles, qu'on gratte petit à petit des auditeurs, qu'il y a toujours des commentaires bienveillants, il y a de la vie, donc voilà, on tient juste à vous remercier toutes les personnes qui sont là. Alors je vais le dire dans l'ordre alphabétique, mais j'ai peur, je connais mal mon ordre alphabétique. On va donc dire merci à Adrien, Alan, Ilias, Madiane et Tom pour l'investissement, et puis voilà, tout simplement.
Très bien, je vais Ilias, est-ce que tu levais le doigt?
Moi, je voudrais ajouter une dernière petite chose. J'ai pas forcément de nom ou de hashtag, enfin ou de personne en particulier. C'est plus général. Je voulais justement passer un big up à nos auditeurs qui ont aussi tendance à nous suivre sur Twitter et qui sont capables par moment de nous mentionner certaines takes, certaines interventions d'épisodes d'il y a 6 mois en arrière. Ça prouve d'une ça dénote un peu d'une certaine fidélité, et ça fait toujours plaisir à lire que les et en plus enfin que les critiques soient positives ou négatives, on les prend, enfin tant que c'est bienveillant comme vous avez pu le dire avant, nous on est preneurs, et en tout cas ça fait plaisir, donc un big up à tous ceux qui nous écoutent.
Bah, très bien, c'est un joli mot de conclusion. On a perdu Alan en vision.
Dans le nom, c'était terminé.
Il aurait vraiment dû investir sur l'informatique. Hein, il y a 5 ans.
Exactement. Voilà, la conclusion est parfaite. On fera
pas grave, en train de parler avec quelqu'un.
On fera pas mieux pour conclusion. On va couper ici. Voilà. De toute façon, plus rien à ajouter. Salut. Merci beaucoup, les gars. Merci à vous. Merci aux auditeurs. Et puis on se donne rendez-vous en 2021 pour la suite de cette saison un peu étrange en NBA.
Salut.
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 Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.